With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je me méfie beaucoup de ce truc de projet personnel parce que je vois que ça mine pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont habités par ça. J'ai pas fait de projet personnel.
Comme si c'était un fantasme obligatoire. En
voilà,
fait.
C'est ça. C'est comme si t'es vide, t'es personne si tu fais pas de truc personnel. Mais en même temps, moi j'ai appris à voir que dans le travail de commande, il y avait des choses plus personnelles.
C'est juste.
Et moi, il y a certains travaux de commande qui ont été fondateurs pour moi et où je me suis dit bah là t'as trouvé un truc personnel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif,
le podcast qui ouvre le champ des possibles et explore les liens entre créativité, boxon et transcendance.
Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazard.
Et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique.
Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram, @senscreatif_podcast. Ce podcast est sponsorisé par Patreon. Patreon donne le pouvoir aux créateurs de faire ce qu'ils aiment et de recevoir une contribution financière de la part d'une communauté.
Ouais, et moi ce que j'aime énormément avec Patreon, c'est qu'il permet aux créateurs de créer de la manière qui leur convient et d'entrer directement au contact de leurs fans sans être obligé de passer par le système entre guillemets, hein, tu sais, genre les grosses agences, les labels de musique, enfin c'est tous ces trucs
là. Ouais, là tu prends vraiment le pouvoir et tu peux monter ta page Patreon un petit peu comme tu veux avec tes propres termes. Ouais. Et puis du coup bah fédérer ta communauté derrière quoi.
Oui c'est un super outil. Tu crées vraiment un système un peu vertueux et
horizontal. Ouais,
voilà, ça c'est vraiment un truc qui est important, une énergie horizontale. On sort un peu de ce système pyramidal où on est toujours obligé de demander l'autorisation. En fait, pas besoin de demander l'autorisation, on le fait à notre manière.
Bah d'ailleurs, sans Patreon, qu'est-ce que serait devenu la communauté Sens Créatif?
Je te le demande. Voilà, exactement.
Merci Patreon.
Donc, si vous avez envie de fédérer une communauté autour de votre projet artistique, quel qu'il soit, et que vous n'avez pas forcément envie de passer par le système, Patreon, c'est peut-être bien la solution pour vous et peut-être une bonne manière pour gagner de l'argent et vous faire du flouze. Voilà.
Pour en savoir plus, vous pouvez visiter la page de Patreon, www.patreon.com.
Exactement, exactement. Ceci étant dit, mon cher Laurent, comment vas-tu?
Eh ben écoute, à part des épisodes Covid qui chamboulent tout, parce que vraiment c'est le chamboulement.
Oh, punaise, ouais.
C'est le chamboulement, le boxon. Eh ben on s'adapte. Par exemple, là on est en train d'enregistrer cette intro complètement à l'arrache.
Oui, mais c'est la magie du podcast.
On a trouvé les solutions. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Oui, ça a été galère de se retrouver pour pouvoir. On a eu plein de soucis techniques, mais bon, soit nous voilà au rendez-vous.
Et Jérémy, aujourd'hui, on reçoit qui?
On reçoit l'incontournable Vincent Mahé.
Ah, trop bien.
Et Vincent Mahé, si vous êtes fan d'illustration, vous le connaissez très probablement.
Ça oui, fait... parce qu'on l'avait rencontré à Nîmes Illustre l'été dernier.
Ouais, ça c'était très cool. C'est une très très bonne rencontre. On en parle au début de l'interview.
Vous pouvez d'ailleurs réécouter le mini épisode en amont si voilà. Vous voulez, si vous l'avez jamais écouté. Écoutez le mini épisode.
Il y a quelques petites répétitions dans cet épisode. Aujourd'hui, c'est la version longue.
Pas tant que ça en fait.
Ouais, une paire. Quelques-unes. Voilà. Donc voilà, Vincent Mahé, donc illustrateur qui a beaucoup bossé dans la presse, donc que ce soit à la revue dessinée. 21.
Oui, c'est un illustrateur de commande. Voilà, il se définit comme ça.
Ouais. Il a bossé pour le New Yorker, le Washington Post.
L'énorme campagne Kenzo qui a été diffusée à la fin de l'année, qui est magnifique. Si vous avez l'occasion de voir cette animation, elle est incroyable.
Très très cool. Ça, c'était pour un petit peu la petite présentation de Vincent. Alors dans cet épisode, on discute évidemment de son parcours et de ses origines familiales.
On discute également de son passage dans les studios d'animation et il s'était spécialisé dans les décors et puis ensuite en fait il s'est lancé en tant qu'illustrateur freelance.
Oui, on va donc du coup découvrir pourquoi est-ce que après avoir fait des études en anime, soudainement tu te retrouves à changer de chemin. On discute aussi avec lui de sa fascination donc pour l'architecture
tout ce qui est urbain. Très calé, oui.
Ouais, il est bien son sujet. Gros passionné.
C'est fait partie vraiment des choses qu'il adore dessiner, c'est les bâtiments, quoi.
Oui.
C'est impressionnant. Et on va parler également de son installation en atelier avec Tom Ogomat et Bruno Mangyoku.
Voilà, que vous connaissez très certainement.
D'ailleurs, on a enregistré dans le fameux atelier.
Et ouais. Très et ça, sympa. C'est plutôt cool.
Vu sur Paris à 360 degrés,
ouais,
monsieur.
Ouais, ça c'était, ouais, super beau.
Impressionnant.
Et bah, pour nous, de toute façon, l'énergie collective a toujours été quelque chose d'assez important, donc on avait envie de voir ça un peu avec lui.
On l'a bien senti, ouais.
Comment ça a changé les choses pour lui. On parle de ses premiers pas dans la presse. Et aussi du souffle nouveau que lui et plusieurs de ses amis ont apporté dans l'illustration. C'est intéressant d'avoir son regard.
Ouais, puis on va voir également l'évolution de son style, ce qui lui a permis de tester des nouvelles choses dans son travail de commande. Parce qu'en fait, on va voir que le travail de commande, bah, c'est pas si boring que ça. Ça peut vraiment donner beaucoup de sens aussi.
Oui, parfois, il y a une sorte de dichotomie entre le perso et le professionnel.
Ouais, le projet personnel. Ouais.
Voilà. Mmh. Et lui, on va se rendre compte qu'il fait pas de séparation.
Et que ça le dérange pas tant que ça.
Exactement.
En fait.
J'ai trouvé ça hyper inspirant.
Et on verra qu'en plus, ses boulots de commande deviennent des boulots de projet personnel.
Exactement.
Et ça, c'est incroyable.
Exactement. Non, c'est une sorte de cercle vertueux, all in dans cette discussion et dans son regard sur les choses. Donc,
on parlera également de sa BD Pour Toujours, qui est absolument magnifique, mais qui malheureusement n'a pas rencontré son public.
Oui, je n'avais jamais entendu parler de cette bande dessinée auparavant. Et puis c'est chouette, je suis reparti avec un exemplaire dédicacé. Merci Vincent. À la demande générale, on a discuté aussi de son processus créatif et comment il construit ses images. Plusieurs personnes m'avaient demandé de lui demander parce que c'est vrai que c'est assez fascinant de voir comment il construit ses images.
On va aussi parler des difficultés qu'il a rencontrées sur son parcours, mais notamment des erreurs de casting. Ouais. Ça arrive.
Mmh. On fait aussi un petit aparté science-fiction. On se rend compte qu'il est fan de science-fiction.
D'anticipation.
Oui, pardon. Et enfin, pour terminer, on discute aussi de parentalité. Vous savez très bien que c'est un sujet qui nous intéresse également. Et en quoi est-ce que le fait de devenir papa a changé la donne pour lui?
Ouais, les perturbations que ça apporte. Puis aussi, bah, là, un petit peu les changements dans l'équipe familiale. Et puis, comment tu passes d'auteur célibataire à finalement auteur en famille.
Exactement.
Ça change
beaucoup de choses. Et d'un tas d'autres petites choses. Donc, sans plus tarder, on est très heureux de vous présenter notre discussion avec Vincent Mahé. Bonne écoute.
Du coup, t'as pas de casque, pas de retour, rien du tout.
Non.
Alors, on pourrait.
On est comme ça, nous.
On pourrait avoir des casques.
Quand on est en studio, on a un casque.
Ouais.
Ouais. On aurait pu te faire venir dans un studio d'enregistrement, montrer que c'était plus sympa de te rencontrer sur ton lieu de travail.
Ouais, tout à fait. Non, je suis content.
On est où, là, exactement, là?
Bah, là, on est, dans mon atelier. J'aurais tendance à dire notre atelier parce que je partage avec mes amis certains qui sont des très vieux amis et d'autres qui sont devenus des amis parce qu'ils ont débarqué ici, ils ont été parachutés dans notre petit atelier. Pour faire une description rapide,
allez, visite des lieux.
C'est parti.
Un rectangle de 50 mètres carrés sous pente dans un immeuble du 18e à Paris.
C'est très beau.
6e. On n'est pas loin de la Seine.
Ouais.
C'est quoi, ces quartiers Saint-Germain?
Ouais, je crois que c'est Saint-Germain-des-Prés et on est dans la bien nommée rue des Beaux-Arts,
oui,
en face de l'école.
On donne le numéro carrément, le numéro.
Ouais. On va s'arrêter là.
Non, parce qu'après on va attirer les frères Kouachi.
on en parlait avec Laurent, pas les frères Kouachi, mais du fait que quelle meilleure rue pour habiter pour des artistes que la rue des Beaux-Arts.
Non, ouais, c'est marrant pour travailler, ouais, carrément.
Franchement, c'est.
Ouais, non, c'est cool. Et puis voilà, on est ici depuis 2013 notamment. Bruno Mangyoku, Tom Ogoma.
Ça parlera à nos auditeurs et nos auditrices.
Ouais, des illustrateurs comme ça. Et puis, il y a aussi...
Vous rendez compte de là où on est?
Ouais, depuis 3 ans, il y a Lila Poppins qui nous a rejoint.
Ouais, j'adore, ouais.
Ouais, donc, comme elle intervient avec du papier, qu'elle fabrique des structures... on va dire plus imposante que les autres.
Il y en a une là.
Voilà, il y en a une là.
Impressionnante.
Du coup, elle prend plus de place que nous qui travaillons sur nos petits iPads et nos trucs. Mais c'est ravissant de l'avoir travaillé au quotidien. Ouais. Ça, c'est très cool.
C'est clair.
Voilà. Et puis après, il y a différents artistes après qui sont plus dans le domaine de l'animation et qui font du design de personnages, notamment Julian Rolls.
Ah ouais, je connais pas.
Bah, qui a un travail incroyable. Enfin, et qui il a travaillé sur des longs métrages incroyables. Et là, il travaille sur l'adaptation d'une célèbre BD française. Voilà. J'ai pas le droit d'en dire.
Okay. Très bien.
C'est cool de le voir travailler là-dessus.
Bon, être dans les notes.
Alors, Vincent, pour les personnes, donc déjà, bienvenue sur Sens Créatif, parce qu'on n'a pas eu l'occasion officiellement de souhaiter la bienvenue sur le podcast.
Ah, merci.
Donc on est.
Je suis content d'être là.
Ouais, c'est la deuxième bienvenue.
Oui, parce que on s'est rencontré cet été à Nîmes au Festival Nîmes Illustre. Et je garde un excellent souvenir d'une certaine soirée à manger des pizzas et boire des bières jusqu'à 4h du mat en plein centre de Nîmes devant ton hôtel.
Absolument. C'était très sympa. On est allé au bout du concept.
Très chouette.
C'était très cool.
Et donc voilà, on est hyper content de te recevoir aujourd'hui. Merci pour ton temps. Alors on imagine que la plupart des gens qui écoutent ce podcast te connaîtront, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais très brièvement te présenter? On a commencé par le lieu, passons à l'individu.
Voilà, on a commencé par le lieu, ouais.
C'est important. Alors, le lieu.
Oui, on en parle.
Donc je suis Vincent Mahé, illustrateur, c'est comme ça que je me présente habituellement. Souvent avec illustrateur vient la question de mais quoi, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais bon, Voilà, là on.
Est-ce que c'est un vrai métier?
On parle à des initiés.
Illustrateur de quoi?
Donc oui, c'est ça. Donc moi, j'ai illustrateur, donc je vais un peu décliner ça sous différentes formes, mais il m'est arrivé de faire des films, des livres pour enfants, également des affiches, notamment pour du cinéma. Il m'est arrivé aussi de travailler pour des marques qui ont besoin d'affiches, qui ont besoin de supports dessinés. Et après des expositions plus personnelles, voilà, mais toujours avec ce style que j'ai, enfin disons que j'essaye d'être, enfin
comment tu qualifierais,
dans lequel j'essaye de mettre de la narration, mais pas séquentiel, enfin disons que je me suis essayé au séquentiel dans un livre qui s'appelait Pour toujours, qui est mon dernier livre d'ailleurs, qui est assez confidentiel, hein, il est resté un peu il est assez confidentiel, voilà, c'est-à-dire qu'il a pas
souvent sous le manteau.
Il a peut-être pas trouvé son lectorat, je pense, autant que d'autres livres que j'ai pu faire. Mais j'aime beaucoup ce.
C'est un livre jeunesse, mais qui peut aussi être. C'est un livre. Il a plusieurs lectures.
C'est un livre jeunesse, un petit peu plombant.
Super.
Dans le sens où mais je suis allé un peu fort, enfin pas fort, mais disons que j'ai voulu parler de la vie dans sa globalité et sans éluder rien du tout, quoi. Voilà. Donc, okay. Notamment la fin.
Ok. Et, ouais. Bah oui.
Et du coup, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Je vous montrerai, mais un. C'est la première fois que je me suis essayé au séquentiel et ça m'a beaucoup plu. Mais la plupart du temps, voilà, pour revenir au cœur de ce que je fais, c'est faire passer une idée dans une image.
Ah, oui.
Avec j'adore y mettre de l'humain, toujours inscrit dans un lieu.
Oui.
Ouais. Le lieu est important.
Voilà, le lieu est important. L'architecture est importante. Le paysage que j'ai fait intervenir plus tard dans mes idées de dessin, mais maintenant c'est vraiment 50-50. Je suis parti d'une énorme passion et fascination pour l'urbain.
Ouais.
Et maintenant j'atterris doucement.
Ça vient d'où ça, cette fascination pour l'urbain?
Ça vient d'où? Ok, alors je vais m'allonger. non, mais en fait, en gros,
ça
moi.
Fait 90 euros.
Ouais. non, je pense. Petite analyse de mon enfance. Je suis né à Paris.
Ouais.
Et quand j'ai eu 3 ans, mes parents sont partis en province.
En Bretagne.
En Bretagne pour ouvrir un restaurant. Et je sais pas pourquoi, mais moi je me suis toujours défini auprès de mes amis comme étant parisien.
Ah oui.
C'était un truc, je suis né à Paris.
Ah oui, ok, ouais.
Alors qu'en fait j'étais un breton.
C'était trop cool.
Voilà, mes parents étaient bretons, enfin voilà. Ils sont bretons, ils sont pas morts. Et donc du coup, je sais pas pourquoi, voilà, j'avais une obsession, c'était je retournerai à Paris. Et du coup, je pense que via ce prisme-là d'être parisien, je me suis intéressé à des grandes villes du monde. Je me souviens, la petite souris une fois m'avait rapporté un livre de photos sur New York.
Ah, elle est sympa, la petite souris.
Carrément.
Ouais, ça m'avait, voilà. J'ai jamais quitté ce livre jusqu'à très tard dans ma vie pour dessiner. Quand j'ai découvert Sazek, énorme choc.
Miroslav Sazek.
Miroslav Sazek.
Ah ouais, ouais. Punaise, j'adore.
Donc une série pour resituer, un illustrateur tchèque qui a fait un livre par ville, quoi. En gros, à chaque fois, c'était
This is London, this is Paris, this is New York. Ouais, c'est ça.
Et bon, c'est dans les années 60, peut-être jusqu'à fin 70. Mais bon, moi, à l'époque, je faisais pas la différence, tu vois. Et juste, en fait, c'était juste fascinant de voir la richesse, enfin le premier que j'ai eu entre les mains, que j'ai trouvé à la bibliothèque, c'était This is New York, et je crois que je l'ai jamais rendu, quoi. Enfin, je l'ai gardé à la maison parce que c'était, j'adorais ce livre. Et puis voilà, après, qu'est-ce qui a pu.
C'est-à-dire dans les livres de Miroslav, il y avait tout ce travail de l'architecture, justement, il dessinait les villes, les bâtiments.
Ouais, ça absolument. Absolument. C'était toujours des scénettes où il y avait un personnage. Parfois il y a que un personnage quand il décrit des métiers, des choses comme ça. Mais souvent, en fait, le personnage est inscrit dans un décor et ça va en duo, quoi, le personnage, ouais. Le décor ou le personnage, son véhicule, et puis souvent il y a des doubles pages assez
et vu que t'étais à la campagne mais que tu te rêvais citadin, c'était genre les bâtiments.
Exactement.
Les buildings,
il y avait un truc, c'est fait pour moi.
Tu vois des skylines, ouais. Dans tes rêves, ça.
ouais non, mais puis après j'ai quand je suis arrivé en art appliqué quand j'étais ado, après j'ai eu enfin, j'ai découvert des architectes comme Tadao Ando ou même, Frank Lloyd Wright.
Tu connais mieux que moi.
Le Corbusier, je connais. Voilà, moi. Toute l'histoire de l'architecture du XXe siècle, voilà, moi, ça m'a happé, quoi.
Ouais.
Et après, tout ça, c'est.
Et après, t'as rajouté de l'humain dans l'architecture.
Exactement. Parce qu'en fait, pour décomposer un peu comment moi je suis arrivé là, j'ai fait les Gobelins.
Ouais.
Avec une forte envie de devenir animateur, de devenir designer de personnages, parce que ce sont les métiers rois dans ce.
Et il y avait des films, il y avait des films d'animation qui t'avaient donné.
Pourquoi l'animation? Parce que j'avais à l'époque, j'étais à fond dans les effets spéciaux. C'était okay. la fin des années 90, ça commençait à arriver. Et moi, je trouvais ça génial ce qu'on pouvait faire sur un plateau de tournage. J'achetais des magazines spécialisés d'effets spéciaux. J'allais voir un film juste parce qu'il y avait tant de plans d'effets spéciaux. Enfin, je trouvais ça dingue en fait, notamment pour créer des paysages urbains. Enfin, j'ai été hyper marqué par le cinquième élément. Des films comme ça qui sont bon inscrits dans leur époque, on va dire, pour être gentil maintenant.
Mais c'était mythique.
C'est clair. Et puis moi, ce film, je l'ai vu 200 fois, quoi. Enfin, c'était. Et du coup, et puis après, comme je dessinais tout le temps, un jour, ma mère est arrivée, elle a dit, j'ai trouvé le truc parfait pour toi, il faut que tu fasses Les Gobelins. Elle avait vu un reportage, je sais pas, sur M6, tu vois.
Ah ouais, elle est sympa,
t'as. Et elle a dit, il faut que tu te renseignes et tout. Moi, j'avais 14 ans, donc j'étais un peu.
Tu te projettes pas, toi.
Ouais, c'est ça, on est un peu mou à cet âge-là, quoi. Mais ma mère, elle était hyper motivée et tout. Donc elle m'a branché sur ce truc-là. Et moi, je me suis dit, ok, allez, vas-y.
C'est les parents qui poussent leurs enfants dans
ma mère, elle était à fond, quoi. Ouais. Et du coup, elle m'a dit, tu vas faire telle école, art appliqué. Et après, tu vas essayer, tu quittes
la Bretagne, tu te casses à Paris. De toute façon, tu nous casses les bonbons constamment avec.
Elle m'a catapulté à Paris. Ouais. Et puis de fil en aiguille, ça s'est construit comme ça, quoi. J'avais à la fois envie de faire du film, du long métrage, et à la fois envie de dessiner. Et après, donc
Tu te rendais compte que t'allais travailler en équipe? Parce que c'est pas un travail solitaire.
Et non. Et c'est vrai que moi j'avais un rapport très solitaire au dessin, quoi. C'était vraiment un moyen pour moi d'être seul et de passer juste 2 heures devant une feuille, voilà.
Un peu en mode moine.
Exactement. Mm-mm. J'aimais bien ce côté-là étant enfant déjà. Et puis, je passe un peu les péripéties, mais le bac en poche, je pars à Paris, je fais l'atelier de Sèvres. Ouais. Et là, en fait, je tombe un peu de l'armoire parce que quand dans ma classe d'art appliqué. Moi j'étais premier de ma classe parce qu'en fait j'étais vachement dans le dessin et les autres étaient plus dans une démarche de recherche, de design, etc. Et en fait moi je faisais des belles présentations parce que je me cassais la tête à faire des dessins et tout, donc ça me donnait des bonnes notes. Mes idées étaient pas dingues. Et puis comme j'avais une passion pour l'archi et l'histoire de l'art, en fait j'avais des bonnes notes en dissert, quoi.
Bon élève.
Ouais, bon élève. Et j'arrive à Paris et là j'arrive en prépa et je vois des gens qui sont des brutes en peinture, qui sont, enfin tu vois, et moi je repars en bas de l'échelle, quoi. Et puis 2 ans plus tard, j'ai réussi à rentrer au Gobelin après 3 essais. Et
ah ouais, 3 essais quand même.
Ouais, 3 essais.
Pourquoi faut insister?
Ouais. Bah j'ai fait l'essai, on va dire crash test à la sortie du bac, et puis après 2 fois jusqu'à.
Parce que t'étais peut-être un peu trop vert et puis.
C'est ça. Deuxième fois, j'ai été jusqu'à l'oral, mais l'oral. À l'époque, j'étais encore moins à l'aise qu'aujourd'hui, quoi. Donc, je me suis.
Sur un podcast, quand même. Ça, c'est cool.
Non, c'est clair. C'est un progrès.
C'est progrès.
Et du coup, je me suis.
C'est une concurrence, quoi. Voilà. T'es pas tout seul à passer le.
Et à l'époque, c'était pas cher. Et du coup, il y avait entre 900 et 1000 personnes qui se présentaient chaque année.
Ouais, donc
c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais ils en prenaient toujours 25, quoi. Et donc voilà, 3e essai, c'était la bonne. Et j'arrive au Gobelin, et encore une fois, je retombe en bas de l'échelle parce que là, la crème de la crème, quoi, en dessin, en animation, etc. Et puis, je me rends compte que, créer des personnages, animer des personnages, ça me plaît, mais c'est pas mon truc.
Quand on kiffe, c'est les décors.
Ouais, c'est les décors. Enfin, j'adorais faire ça, quoi. Et donc, après 3 ans d'études, on fait des films, etc. Et puis à la sortie, en fait, mon book tape dans l'œil de 2-3 personnes, et puis en fait, naturellement, ils me proposent de faire du décor, quoi. En fait, ça se voit, en fait, dans ce que je fais. Mm-hmm. Voilà. Après, moi, le style que j'ai aujourd'hui ne se voit pas du tout à l'époque. Hein. Je resitue. On est en 2008. Je fais juste des décors de dessins animés.
Tu as bossé sur quel dessin animé, peut-être un peu connu?
Alors, j'ai bossé sur 2 projets qui sont jamais faits, mais qui étaient hyper enthousiasmants. Je reviendrai peut-être là-dessus. Mais on va dire le seul film sur lequel j'ai bossé qui s'est fait, c'est Titeuf. Titeuf, le film.
Ok.
Ouais. Ouais. Lequel j'étais lead designer décor.
Ah yeah.
Ouais.
Ok.
Voilà. Donc bon. Je passe, mais bon, c'était formateur, on va dire.
Pour être poli.
T'as dessiné combien de décors dans un film comme ça?
Je suis resté un peu plus d'un an, je crois, sur la production.
C'est vrai que c'est drôle, on n'associe pas Vincent Mahé à Titeuf, quoi.
Pas du tout.
Mais maintenant, c'est fait.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Drôle. C'est trop tard.
Elle sort pas celle-là.
Non, en plus, j'aime beaucoup Zep, hein. J'adore son coup de crayon et tout, mais. On va dire que le film, c'était un peu une entreprise commerciale, oui, l'aboutissement d'un truc un peu culte. Voilà. Et effectivement, travailler en équipe, je découvre là à ce moment-là que c'est pas mon fort, quoi. Je suis pas un grand communicant, on va dire.
Donc le fait que tu te lances en 2013 en illustrateur freelance, c'est aussi pas mal motivé par le fait de vouloir retourner un peu en solo.
C'est motivé, ouais, par le fait de, bah, disons qu'en 2011-2012, quand je suis sur ces longs métrages là et puis que qui n'aboutissent pas, on va dire qu'en parallèle de ça, je lance un peu une quête artistique entre guillemets. C'est un peu un grandiloquent de dire ça, mais on va dire que je continue à chercher quoi. Où est mon pas mon style,
ton ikigai.
Je cherche des trucs quoi. J'essaye des trucs. J'ai toujours cette mini frustration à l'époque. Je me souviens de pas encore être à l'aise avec les personnages. Je me dis t'es parti à fond dans le décor et puis t'as envie de raconter des choses, t'as envie d'être narratif et en fait ça bloque encore. Donc je me souviens à l'époque je travaillais beaucoup les personnages.
Tu gagnes ta vie à l'époque en tant qu'animateur?
Je gagne ma vie en tant que je suis intermittent du spectacle et franchement ça
donc il y a un confort
allait, quoi.
Voilà,
ouais,
y a
la vie est douce,
il
y a pas d'enfants, on vit chichement, on voyage gentiment et c'est ouais. Cool. Ouais.
La vie d'artiste comme on
la vie salariée quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est sympa.
Oui, non, c'est vrai.
Ouais,
oui.
Y a un côté vraiment reposant quoi. Ça tombe à la fin du mois, on a des horaires, etc. Enfin voilà.
Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te dis
Et du coup, je sais pas, à un moment donné, je commence à mettre le doigt sur des trucs. Je me dis ça c'est cool. C'est comme ça que j'ai envie de dessiner les personnages, c'est comme ça que j'ai envie de faire des images. Je sens que je commence à avoir envie de continuer à chercher à tirer le fil quoi. Et puis donc je continue à tirer le fil en parallèle de ma vie salariée entre guillemets. Et puis voilà, au bout d'un moment il y a une petite cohérence quoi qui se met à apparaître en fait dans tout ça et puis en 2012 je refais une dernière année d'animation.
Ouais.
Et là, en fait, je travaille chez Xilam sur une série qui s'appelle Hubert et Takako.
Hubert
et Takako. Okay. Voilà, c'est un petit cochon et une mouche. Enfin, c'est y a eu qu'une saison, mais c'était vraiment très fun de travailler là-dessus parce que j'étais vraiment avec des copains de longue date. Et en fait, on s'encourage beaucoup, on regarde un peu les dessins des uns et des autres personnels, quoi. Et puis là, pareil, ça continue à, je sais pas, à l'émulation et tout ça. Et puis.
Les copains en question, c'est Tom Ogomat et Bruno.
À l'époque, c'était François Maumont.
Qui est aujourd'hui un illustrateur
aussi.
On connaît, ouais.
Olivier Pouchelon, qui lui est devenu réalisateur, à Xilam.
Ouais. Tu connais, toi?
Non.
Qui a réalisé sa série et qui est vraiment maintenant beaucoup plus dans la narration, la réalisation. Mais à l'époque, il était au décor, comme moi. Et puis voilà, à la fin de cette année-là, en fait, on discute avec Tom, Bruno, qui eux, pareil, ils faisaient la réalisation de leur court-métrage et de publicité. Mmh. Et en fait, on se dit, allez, on se fait une petite coalition de copains et on cherche un local, quoi.
Ici.
Et en fait, on a trouvé ici, ouais. Ouais.
Ah ouais, c'est ici vraiment que tout a commencé.
C'est ici que tout a commencé. Ouais. C'est pour ça qu'on a du mal à partir.
Still going strong.
Disons que maintenant, on.
Bah, c'est un bon spot, hein. C'est difficile quand même de.
C'est un bon spot.
Trouver mieux à Paris. Ouais.
On est super bien. On est super bien.
Qu'est-ce que ce lieu, en fait, sur le Sens Créatif, on a bien parlé un peu de l'énergie collective, de la force du collectif. Et qu'est-ce que ce lieu vous a apporté autant individuellement que.
Collectivement.
Ensemble. Ouais.
Ouais, c'est une bonne question parce que on s'en doutait pas quand on l'a fait, mais c'est vrai que il y a eu un petit quelque chose qui s'est passé ici. Je sais pas comment le définir. Ouais, mais il y a eu une effervescence entre nous. On s'est beaucoup.
Parce que pour dire à nos auditeurs et nos auditrices, entre toi, Tom et Bruno, il y a quand même une connivence graphique. Il y a un univers en fait.
Il y a une école.
Qui est une école. Ouais.
On vient de l'animation, donc on a peut-être. J'ai pas mal de points communs avec Tom sous un certain aspect et beaucoup d'autres points communs avec Bruno sous d'autres aspects. Enfin, disons qu'il y a vraiment un dialogue à trois. Ouais, il y a un petit triangle et ça, on en est conscient et on cherche pas forcément à noyer ou alors à se rapprocher. Mais disons que ça s'est fait comme ça naturellement.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'au début, en 2013, on s'est beaucoup nourri des uns et des autres. Et on était vraiment comme un petit collectif, on s'aidait, on cherchait des solutions graphiques, il y avait aussi des entraides, on va dire, sur appel tel gars qui est tel DA, moi il m'a fait travailler, peut-être que voilà. Et puis en fait, il y a eu un peu une émulation entre nous, mais aussi un petit bruissement un peu dans Paris où on se disait, bah tiens, ces gars-là se sont réunis, ils ont telle compétence, c'est intéressant. Et du coup, il y a eu quelques films publicitaires qui ont été faits ici au début.
Ouais. Ah, d'accord.
Et puis en fait, rapidement, je crois que c'est moi qui ai dû commencer un peu à m'éloigner de l'animation, mais assez rapidement, moi j'ai commencé à avoir du boulot en illustration.
Ah oui, ouais.
Ensuite, j'ai trouvé un agent. Et en fait, ça a un peu, on va dire, accéléré les choses pour moi. Et ensuite, après,
ton agence costume trois pièces.
Ouais. Et toujours aujourd'hui, on a une super relation. On pourra revenir là-dessus. C'est... Non, mais c'est intéressant aussi. Mais...
Ton premier boulot de commande, c'est.
Et mon premier boulot de commande, ça va être. Alors, sans agent, c'était. J'étais allé voir chez 21, la revue 21. Ils étaient juste à côté.
Oui, magnifique. Hein, bah oui.
Ils avaient leur loco à côté. À l'époque, aujourd'hui, c'est ils ont changé la formule et tout ça. Mais à l'époque, c'était.
Et beaucoup d'illustrations.
Une des seules revues purement illustration avec du journalisme littéraire, c'était hyper intéressant comme formule et c'est pour ça que ça a marché d'ailleurs. Et pour les illustrateurs, c'était génial quoi, parce que c'était.
Ce qui est drôle, juste pour la petite anecdote, c'est que tu t'es lancé dans l'illustration grosso modo en 2013.
Oui.
Et moi, j'ai déménagé à Paris en 2013 pour me lancer également dans l'illustration, mais j'y connaissais rien.
Oui.
Et donc du coup, j'achetais des magazines pour voir quel DA contacter, etc. Et 21 m'a évidemment tout de suite tapé dans l'œil.
Hein.
Et en fait, c'est comme ça que je t'ai connu. Je t'ai connu vraiment au tout début où j'étais genre, oh, punaise, c'est qui ce mec? Et voilà, c'est drôle parce que ton premier job, c'est un peu un des premiers où j'étais moi, je veux bosser pour 21.
Ouais.
Alors, j'ai pu bosser une fois pour eux, ou non, une fois, non, deux, je sais plus. Mais en tout cas, j'étais très content. Bref, voilà.
Ouais, ouais. Non, mais c'est marrant parce que, en fait, comme on a le même âge quasiment.
33.
Ouais, alors moi, je suis plus âgé, en fait. 30, 37. Mais je pense que, en gros, ouais, je suis arrivé dans ton radar au moment où tu te lançais. Enfin,
ouais, exactement.
Et c'est marrant parce que, oui, on regarde un peu tous les mêmes revues. Enfin, c'est...
Surtout si on aime la presse.
Donc là-dessus, ouais, je remercierais vraiment Quentin Leeds, qui a été celui qui m'a donné ma chance dès le début, en fait. Il a dit, OK, j'aime bien ce que tu fais, je vais te donner un article.
Et t'es revenu plusieurs fois.
Et ouais, en fait, je lui suis très fidèle quand il m'appelle. J'essaye de me libérer après quand je peux pas, je lui dis, mais
non, c'est un super dia.
Ouais, et ouais, il est cool. Très cool. Et en fait, comme à l'époque ils étaient voisins, ils étaient rue Jacob juste à côté.
Ah oui.
Ils ont déménagé depuis, mais on se voyait, on déjeunait, et puis en fait ça s'est fait comme ça. On a eu une bonne relation professionnelle, ça c'était très cool. Et du coup, le premier article qu'il m'a confié, c'était un article sur la guerre en Syrie. C'était le tout début de la guerre, et c'était un article sur des Anglais en fait qui partaient faire un convoi humanitaire, mais des Anglais d'origine syrienne qui partaient faire un convoi humanitaire pour aller en Syrie. Mais en fait, aujourd'hui, quand on relit cet article, enfin, c'est marrant, mais c'était un peu un départ, en fait, de type qui pensait faire de l'humanitaire, et puis certains ont dû tomber dans le djihadisme, enfin, et on sentait déjà ça dans les lignes de l'article, quoi. C'était assez intéressant. Ils partaient tous un peu pour des raisons différentes. C'était un peu une espèce de convoi comme ça, foutraque. Et du coup, l'article m'a plu, et en fait, je me suis lancé dans.
Donc là, t'as dessiné de l'humain et du paysage, forcément.
Exactement. Et en fait, j'ai fait une double page.
Une narration aussi.
Une double page d'ouverture complètement avec des portraits. Des portraits de personnages, et après à l'intérieur les deux petites illustrations à l'intérieur, c'était plutôt du décor en fait, voilà, avec les véhicules dans les stations essence, comment ils traversent la frontière, etc. Et du coup, bah déjà il y a un langage qui s'est posé là tout de suite, et puis
l'une chose a amené à l'autre.
Exactement. Et après, une fois que j'ai trouvé un agent, après j'ai.
Ah bah oui, 21 plus un agent.
Ouais.
T'as déjà les clés là pour.
Ouais, c'est ça. C'est à un moment donné, ça a déverrouillé quelque chose. Ouais. Après, je pense que j'ai trouvé mon créneau aussi au sein de mon agence. C'est-à-dire que eux, ils ont compris ce que j'étais capable de faire, pas capable de faire. Et puis en fait, il y a eu un certain type de clients que j'ai intéressé.
Oui, ça, de toute façon, ça fonctionne en fait, comme ça. Ouais. C'est hyper important d'être identifiable dans un book en fait d'agent.
Et en fait, je pense que comme il y a eu une cohérence de mes clients, et moi ma cohérence stylistique aussi était en train de s'aligner, quoi. Tout ça s'alignait ensemble, et puis voilà quoi, c'était parti après.
Et
pour revenir au groupe l'atelier, ouais. Bah, en fait après Tom a pris un agent aussi, et puis Bruno par la suite, etc. Et puis en fait après on s'est aussi échangé plein de retours d'expérience,
ouais, parce
que c'est d'être illustrateur, et on a eu des conversations fondatrices, quoi, hyper
c'est quoi ces conversations fondatrices?
Ouais, non, mais je veux dire ça c'est quand on est trois, face à un métier, ou à échanger des expériences,
oui, une perspective,
moi, je trouve que c'est hyper riche, quoi. En fait, ça permet de pas se fourvoyer, de pas faire d'erreurs. Et je dis ça pour comparer à quelqu'un qui serait tout seul chez lui,
sûr,
à travailler dans son appart avec juste une relation lui agent. Nous, on avait ça en plus. C'est-à-dire, on avait qu'est-ce t'en penses, t'as vu, il m'a proposé ça. Enfin, tu vois, on peut vraiment discuter, et puis
oui, c'est hyper
affiner
important.
Un peu, affiner en fait son sens professionnel, quoi.
Et votre amitié fait qu'il y a pas de concurrence. Si, il y a forcément un peu de concurrence.
En fait, on a une amitié très franche. Donc en fait, quand il y a un souci, en fait,
vous le dites, quoi.
On fait une grosse blague, on bourrine, et on le dit,
En même temps,
et,
en
fait, et puis il y a jamais eu de.
Quand on travaille ensemble, ça permet aussi de se tirer vers le haut. C'est genre ah lui là il a fait ça, punaise, ça c'est trop bien. C'est j'ai ça, envie
c'est
de.
Ça, c'est la formule. Hein.
C'est stimulant en fait.
Ouais, ouais, totalement stimulant.
Et tu parlais tout à l'heure de d'effervescence et aussi du bruissement de votre trio et de votre atelier qui s'est installé auprès des clients. Mais est-ce que vous êtes rendu compte que quelque part vous aviez apporté une sorte de nouveau souffle un peu dans l'illustration, parce que vous venez de l'animation et puis il y a un peu ce style très beau, léché, fourni qui s'est un peu imposé, et je pense que vous y êtes un peu pour quelque chose.
Là j'ai du mal à avoir du recul là-dessus, mais
ouais, c'est normal.
je sais pas. Enfin, là-dessus je préfère rester humble, parce que je me souviens qu'à l'époque en fait où nous on s'est lancé, il y a plein d'autres choses qui se sont lancées. Mm-hmm. En parallèle de nous, il y avait le CRCR qui était collectif aussi animation qui était très léché, très
mais aussi de l'animation qui venait aussi de l'animation.
Aussi de l'animation et qui ont sporadiquement aussi fait de l'illustration je veux dire à côté de leur film, autour de ce groupe-là, il y a Hugo Bienvenu aussi qui gravitait, lui aussi a depuis explosé. Ouais. Je me souviens que en même temps que nous on est sortis de l'école, il y a eu une promo qui est sortie des Arts Déco Strasbourg qui était incroyable aussi, avec Simon Roussin, Marion Fayol.
Oui. Il y a une génération comme dans laquelle vous êtes
comme
inscrit.
Comme tout, en fait. Là, j'imagine qu'en ce moment, il y a une génération qui émerge.
Bien sûr, de toute façon.
C'est vrai, t'as raison, parce que c'est difficile de mettre le doigt sur ce qui est en train d'émerger maintenant.
Oui.
Mais c'est
peut-être qu'on n'a pas la grille de lecture.
Et on le verra dans 4 ans.
c'est ça. Mais rétrospectivement, c'est intéressant ce que tu dis, on essaye toujours de faire des ensembles, tu vois, de faire des groupes, en fait, d'essayer de trouver une cohérence.
Ça a été toujours ça depuis toujours, hein. Il y a des écoles, des écoles de style.
Après, je sais pas.
Après, un style n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que toi, ton style, tu le disais tout à l'heure, depuis tes débuts, il a évolué, il continue à évoluer. Et, tu t'es retrouvé, j'imagine, à certains moments, où tu t'es peut-être dit allez hop, je tente quelque chose et tant pis si c'est pas le style que je faisais là depuis peut-être 1 ou 2 ans.
Ouais.
Est-ce que t'as vécu ça?
Alors, des ruptures aussi nettes, pas forcément, mais il y a eu des petits glissements où sur une commande je me suis dit tiens, on va tenter ça. Je me souviens, on en avait parlé à Nîmes.
Oui. Le croquis, enfin.
Ouais, faire inter. Enfin. J'ai commencé moi en faisant de l'aplat. Je vais me répéter un peu pour ceux qui ont déjà écouté. Désolé. j'ai commencé en faisant de l'aplat. Et ensuite, moi parallèlement, je faisais beaucoup de carnets de croquis où j'avais cette ligne un peu rotring noire, ligne claire. Et puis des copains et puis les agents ont été de bons conseils en me disant quand même cette ligne, c'est dommage, elle est très belle, elle apporte beaucoup. Pourquoi elle est pas présente dans tes travaux de commande?
Parce que t'avais l'impression de te foutre de la gueule des clients.
Exactement. Je me disais, je fais ça trop vite. C'est pas ce que demande le client. J'étais encore vachement subordonné à ça, parce qu'en fait quand on commence, on est.
Tu projettes sur le client.
J'avais un peu cette position. Je suis leur employé.
Je
suis votre subalterne. Donc vous m'avez demandé ça, je vais vous donner ça. Enfin, c'est
la meilleure qualité.
C'est comme ça qu'on commence. De toute façon, enfin après, il y a des gens qui s'en libèrent plus ou moins vite de ça, mais moi j'ai mis du temps, franchement, à dire.
Non.
Aujourd'hui, je suis assez à l'aise. À dire voilà ce que j'ai à proposer artistiquement, voilà ma proposition, en fait c'est à prendre ou à laisser, enfin je veux dire, ça vous plaît ou pas, quoi. Mais à l'époque, comme je me cherchais et que je voyais un client arriver et qui me disait on a bien aimé ça et c'était un truc en aplat, je vais refaire de l'aplat, etc.
Bien sûr.
Et j'étais dans un truc
et c'est comme ça aussi qu'on s'enferme dans
exactement,
un style, voilà.
Exactement.
Mais c'est aussi important d'être reconnaissable, genre.
Mais oui.
Donc il y a cette ambivalence qui est compliquée. C'est, je me souviens quand je t'ai rencontré, j'avais divers styles et tu me disais genre amuse-toi, parce qu'à un moment donné on va t'appeler que pour la même chose et ça va être chiant. Et en réalité, en même temps, c'est le fait d'être reconnaissable qui t'apporte du taf, et de l'autre c'est important d'avoir une sorte de terrain de jeu pour pouvoir expérimenter et tester des nouvelles choses.
Et quand t'as fait 4-5 fois le même type de commande, tu te poses vraiment des questions. Tu te dis est-ce que je vais continuer à faire ça longtemps, quoi.
Ouais. Alors si ça t'ennuie, il faut changer. Mmh. Mais à un moment donné, c'est pour ça que moi j'ai jamais eu de cassure nette.
Oui, c'est progressif.
Non pas parce que je me méfiais d'être plus reconnu, mais en fait j'avançais vraiment, quoi, un peu en tâtonnant, quoi. Et le fait de réintégrer cette ligne, ça a été sur une commande en fait où j'avais pas beaucoup de temps et où je me suis dit allez. Là, je vais faire un beau clean noir, et puis je vais juste remplir à l'intérieur parce que là j'ai pas le temps.
On peut vraiment appeler ça de la ligne claire en plus,
ouais,
parce que t'es vraiment
dans ça. C'était, je me dis, allez, ça faisait quelques années que j'étais un peu, j'avais un truc un peu RG-esque, on va dire dans les visages et tout ça, et je me dis tiens. Vas-y, on va assumer la case de BD, quoi. On va faire la ligne claire, puis après comme j'avais gardé j'avais une palette limitée de couleurs, ça j'ai toujours eu.
Oui, oui, oui.
Et en fait, je l'ai gardé dans la ligne claire. Donc il y avait une sorte d'entre-deux en fait, et du coup je rends mon travail, et puis j'avais vraiment l'impression de m'être moqué du client quoi, et en fait ils ont adoré. Et après, j'ai continué.
Une mini parenthèse, oui. Est-ce que tu connais l'illustrateur belge Jan van der Wacken? Parce qu'il fait de la ligne claire, beaucoup d'architecture, okay. Et aussi des palettes limitées.
Alors j'ai
Jan van der Wacken, je vais le dire à la française. Okay. Ça te dit quelque chose?
J'ai une très mauvaise mémoire des noms. Okay, en fait, moi, je mémorise les images et les avatars Instagram. Après, les noms, en fait, c'est le dernier truc que je mémorise. Mais on regarde.
Non, t'inquiète, avec plaisir. On parle de ligne claire.
Je suis toujours friand de découvrir.
Ah bah l'école belge. Oui, énorme.
Ouais, ouais. Ah bah oui.
Culture du bâtiment.
Totalement. Moi, tout ce qui est comment il s'appelle. Toutes les couvertures de Monsieur Magazine, Flock. Voilà.
Ah, Flock, bien sûr.
Flock, j'adore.
Flock, c'est magnifique.
Tête Benoît.
Flock, il a fait beaucoup aussi d'affiches de films. Enfin,
Flock, c'est d'une élégance.
Ouais, voilà, c'est vraiment l'élégance, puis c'est la capacité à. On te montrera.
Non, mais je
pense que tu as déjà vu.
C'est la capacité
à la fois l'architecture et l'humain, quoi. Il est en capable des deux, quoi.
Donc ça a été énorme influence pour moi, Flock. Et puis, forcément après les grands RG. Jacob,
bien sûr.
Voilà. Et puis après des références plus récentes quoi, mais Chris Ware notamment.
Oui, j'y pensais.
Aux États-Unis, Daniel Close, voilà.
Oui, bien sûr. Ouais.
Aussi, voilà. Après là, on s'éloigne peut-être un petit peu plus de ce que moi je fais, mais ça.
Mais pourtant, Chris
Ware
est important pour toi.
Totalement. Ouais, totalement. Ouais.
Pourquoi?
T'es fan?
Ouais, je suis un gros fan. Ouais, je rate rien de ce qu'il fait. Déjà au niveau de la narration, c'est incroyable quoi. Le côté, je trouve qu'il a une espèce de réflexion complètement holistique quoi de la vie.
Et souvent sans dialogue.
Du temps. Moi, j'adore ce genre d'œuvres en fait qui essayent d'être totales.
On retrouve ça dans Pour toujours. Hein, cette approche-là.
Et il peut être assez déprimant aussi, Chris Ware.
Totalement.
Donc, du coup, tu me dis que ton dernier bébé, ton livre, il est un peu déprimant. Tu te dis, allez, je le fais à la Chris Ware.
Très Ware-esque, ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, ça me fait pas peur ce côté-là, ce côté un peu plombant comme ça. Mais c'est vrai que la plupart des gens à qui j'en parle me disent ouais c'est très beau mais bon c'est hyper plombant, c'est
comme si c'était contradictoire,
c'est que des destins horribles, c'est que des, et puis le type est assez froid comme c'est une sorte
Chris Ware,
de robot quoi. Mais énorme cerveau quoi, tu vois, le mec il a une espèce de réflexion sur l'archi, sur l'histoire de son pays, tu vois, enfin qui fait intervenir par goutte comme ça, enfin c'est fou quoi. Il fait tout à la main.
Et puis il fait tout à la main,
c'est un truc de fou. Parce que quand tu vois, tu te dis, c'est l'illustrateur, c'est pas possible.
Non.
Et non.
Tirling.
Tout à la main.
Plume. Ouais.
C'est un véritable artisan. Un crafter.
Ouais. C'est ça, hein. Ouais.
D'ailleurs, en parlant de craft, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton processus créatif? C'est-à-dire que quand on observe ton travail, on sent, c'est très cinématographique, les cadrages, on sent vraiment, que t'as fait de l'animation, et on aurait aimé savoir comment tu penses et comment tu construis tes images.
Ok.
C'est la minute tuto.
Ouais, alors c'est ça. Alors étape 1, casser les œufs, farine.
Alors
petite recette. Ouais. Disons que
tu aimes la gastronomie, donc.
On va faire comme une recette. Disons que effectivement, comme je suis passé par l'animation, on va dire que je vais avoir une approche assez de cadreur, quoi, en fait. C'est-à-dire que, même si le format c'est un A4, donc on n'est pas du tout sur un écran ou quoi, mais si le format par exemple c'est un A4, je vais sortir mon carnet, j'appelle ça mon carnet poubelle, mais c'est en gros c'est les pages que je remplis, quoi. Je vous montrerai après, mais c'est là où je gratte toutes mes idées pour chaque début de projet, quoi. Et en fait, je vais faire un A4, mais qui va faire 5 cm de haut sur 3,5 ou 4 de large.
C'est ton thumbnail.
Et je fais du thumbnail, comme on dit. Et puis en fait, je vais en faire 10, 20, jusqu'à ce que je trouve la bonne compo. Au début, ça va être hyper charbonné. Et puis, je cherche comme un cadreur, c'est-à-dire je me dis, est-ce que j'ai besoin ici d'un overlay qui passe devant, est-ce que dans le fond il y a ma ligne d'horizon, je fais pas forcément de dessin technique à cette étape là on va dire, ça va être purement du blocking comme on dit quoi, c'est-à-dire je cherche par masse, je cherche vraiment par là, c'est vraiment de la pure compo. Après, on va dire, je vais sélectionner là-dedans un ou deux cadrages ou une ou deux idées qui me plaisent, et je vais les redessiner en un peu plus grand, Voilà, là on va être sur du 10 cm par 7 quoi. Et puis là je précise alors la taille du personnage, c'est un peu mieux dessiné, voilà.
Entre guillemets.
Si voilà, là je vais rajouter les petits oiseaux, c'est peut-être là que je vais avoir mes idées un peu de narration quoi. Mmh, et puis, bon après ça reste un croquis, donc à partir de là moi je vais le prendre en photo, je vais l'importer dans Procreate ou dans Photoshop, et puis là à ce moment-là je vais commencer à tracer ouais. Le clean en noir et blanc, et puis là je vais repréciser des choses, je vais travailler les expressions, je vais travailler. Il y a peut-être une petite étape avant où je transforme un petit peu le croquis. Oui. Si je vois que en compo ça marche pas, là je déforme un peu. Il y a un petit passage numérique un peu. Et puis après,
tu te documentes beaucoup? Ou parce que justement avec cette influence cinéma, est-ce que par moment tu vois un plan dans un film, tu te dis punaise, ça ferait une bonne illu, ou tu te balades dans la rue, tu vois.
Je fonctionne pas par référence. Déjà, on va dire digéré artistiquement, c'est-à-dire je vais pas regarder un film ou un tableau, mais par contre, à partir du moment où je vais avoir bloqué ma compo, là à ce moment-là, je vais faire des recherches assez poussées du lieu en fait que je veux représenter.
Ouais.
Parce que là, c'est là que j'apporte aussi une certaine richesse dans les détails architecturaux, dans les vêtements. Enfin après, c'est là que j'apporte un peu le.
Donc là, tu vas regarder des documentaires sur Internet.
Franchement, je me sers énormément de Google. Franchement, que ce soit images ou Street View, c'est juste une fenêtre sur le monde, quoi. J'ai pas beaucoup le temps de sortir de l'atelier quand je suis un peu la tête dans le guidon. Mais voilà, c'est petit tip, ce qui fait pas rêver.
Mais en fait, c'est vrai que
je sais pas. Imagine, je vais avoir une illustration. Où ça va être pour le New York Times ou quoi, et où ça doit se passer dans une banlieue, c'est arrivé récemment en fait.
Ah oui,
ça doit se passer dans un quartier.
Ouais.
Voilà, moi c'est pas quelque chose que j'ai à portée de main, et je vais pas aller chercher le livre du gros photographe qui a travaillé sur les suburbs, ça va être déjà un filtre esthétisant, tu vois.
Bien sûr.
Sur le qui va m'influencer dans les compos et ça.
Et à contrario, tu peux pas non plus prendre un décor standard. Parce que ça va te bloquer. Tu vas te dire à un moment, c'est pas la vérité.
C'est ça. Ah oui, tout ce que, enfin, je fais pas confiance à ma mémoire, si tu veux.
Ouais.
Je vais pas me dire, bah si, je sais ce que c'est qu'une banlieue américaine.
Et du coup, j'ai tendance à me relier au réel. À un public américain en plus, donc du coup, en tant que français, tu peux pas.
Ah oui, oui,
ça peut se voir, quoi.
Ouais, complètement.
Le gars, il a une baguette dans la rue. C'est gouré là.
Non, mais je sais pas. Ouais, typiquement les banlieues américaines, il y a peu de gens qui marchent sur les trottoirs, par exemple, tu vois. Il y a des petits détails comme ça, c'est vide. Fin...
C'est vrai que c'est le genre de choses auxquelles on pense pas.
Bien sûr, les gens restent chez eux ou ils arrivent en voiture.
Quand je représente la rue à Paris ou la rue en Europe, je sais qu'il y a pas mal de vélos, des trucs comme ça. Bon, bref. C'est des petites observations, comme ça, à la volée. Et du coup, bah, pour finir sur ce projet, bah, je suis allé sur Google Street View, j'ai tapé, Atlanta, tu vois, les villes un peu, Denver, tu vois, et puis j'ai cherché, quoi. Après, je regarde, tu vois, je me dis, ah, tiens, là, c'est le type de maison que je cherche, un peu classe moyenne, comme ça. J'aime bien ça, le petit détail crado, du grillage, tu vois. Et puis, je finis par trouver la maison que je cherche, en fait, tu vois.
Et forcément, de balader.
J'ai fait ma balade. Des fois, ça me prend 2 heures. Des fois, je me perds, je vais voir d'autres trucs. Mais voilà, c'est comme ça que je trouve mes références. Et après, c'est ça que j'aime à la fin, c'est avoir cette petite richesse qui se dit, ça existe.
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire que j'arrive à faire passer par la palette limitée et par la manière de présenter les personnages qui est assez simple,
ouais,
une forme d'universalité, une forme de simplicité, en tout cas d'image très lisible tout de suite, mais j'ai quand même envie que ce soit tangible, tu vois. J'ai envie que les gens c'est ce qui va les relier aussi au réel, quoi.
Ouais, complètement.
Donc j'aime bien naviguer cette ligne un peu fragile, en fait, entre réalisme et
parce qu'il y a beaucoup de poésie, hein, dans tes images. C'est-à-dire que malgré l'aspect très réaliste, malgré le souci du détail, tu arrives à amener beaucoup de simplicité et donc beaucoup de poésie. Ça, c'est assez.
La poésie arrive sans que ce soit prémédité, mais c'est vrai que ce que j'essaye de faire, c'est que dès que je vais sentir une certaine froideur ou si je tombe d'un côté du mur, quoi, c'est-à-dire dans le réalisme froid, il va falloir que je rajoute quelque chose, quoi.
Il y a un équilibre à trouver, une balance, quoi.
J'ai toujours besoin de, même si je vais, enfin, là, récemment, ça peut m'arriver, par exemple, de faire une vue d'une ville, vue du dessus.
Mmh.
bah ça peut être un peu froid en fait parce
c'est
que
c'est clair ouais,
fait,
bien sûr
comme dans le film Prokenzo en fait où
ouais,
les grues
pure,
passent
c'est de la pure archi hein. Ouais. c'est un peu froid mais là je vais me dire OK là il faut que je mette le paquet sur la lumière, faut que la lumière ait de l'émotion en fait. Mm-hmm. Donc souvent ça va passer par une lumière rasante ou un coucher de soleil ou quelque chose qui se passe dans le ciel et là j'injecte de la poésie, tu vois. Enfin en tout cas j'injecte quelque chose de chaleureux, de vivant et puis parfois ça peut être là je vais me dire à la fin je vais me dire allez là il manque d'un oiseau quoi, ça manque de vie quoi ou il y a je sais pas. Je pense que sur la fin, je vais toujours chercher la petite touche qui va me sortir de cette froideur justement.
Donc du coup, la poésie, elle est amenée par ton souci d'amener de la vie en fait dans tes images.
Peut-être. Après, je dis ça, il y a des images que je fais qui sont pas forcément narratives, mais je trouve que la narration va me faire tomber du bon côté quoi. Si je fais une rue de New York. Purement performative, c'est des bâtiments avec une belle perspective et tout. Mais bon, si j'y mets trois voitures, déjà, on franchit une étape quoi,
oui.
Dans la vie.
Mm-hmm.
Si j'y mets un commerçant qui est sur le pas de sa porte, tout de suite, on est avec lui. Si je mets quelqu'un qui passe avec son chien, et puis après, comme ça, par layer, on rajoute de la vie, quoi. On rajoute.
Allô, allô. Ici le Patate Club.
Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît.
Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous.
Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon.
Ça nous aiderait énormément, et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus.
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode, ou attendez la fin, un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout.
Allez, retour à l'épisode.
Et puis parfois tu vas dans le cosmos, où tu fais des illustrations dans l'espace.
Bah alors ça c'est une autre de mes passions.
T'as fait un hommage avec
la science-fiction.
La science-fiction.
Ouais. Ah c'est une autre de tes passions.
Ça rejoint en fait. Ça rejoint
l'architecture du ciel.
Le type de film que je regardais quand j'avais 14 ans.
Ah oui, bien sûr.
Je pense que c'est né là.
2001, l'Odyssée de l'espace.
J'étais un énorme fan de Star Wars, honnêtement. Donc plutôt le côté moins intello de la
science-fiction. Non, j'ai tenté, tu vois. Mais non, c'est
non, mais
Star
après,
Wars,
bien
évidemment.
Sûr, après, moi, aujourd'hui, on va dire que la science-fiction que je consomme, je suis devenu hyper exigeant, quoi, hyper dur. Je peux plus regarder, tout ce qui est le MCU, Star Wars et tout, je peux pas, quoi.
Tu t'es arrêté au...
Ouais, non, mais le début des films de super-héros, tu vois, à ce moment-là, j'ai fait...
Ah oui, okay. Moi, j'en peux plus non plus, j'en peux plus.
Quelqu'un qui partage ma
on va dire que ils m'ont perdu aux Avengers, tu vois.
C'est
quand
ça.
Quand ils étaient à plusieurs et qu'il y avait des trucs qui venaient de l'espace et tout, j'ai fait, ok, j'arrive plus, je comprends
plus. Ouais, moi
plus,
non plus. J'ai vu le premier des Avengers, j'ai adoré, je me suis vraiment éclaté, et puis après, j'en pouvais plus, après, c'était l'overdose.
Ouais, voilà.
Ouais, moi, j'ai plus kiffé un Interstellar que...
Ah ouais, non, mais Interstellar.
Ouais, exactement. Tu vois, Interstellar, Arrival aussi de Denis Villeneuve, j'adore.
Mm-hmm.
Ce genre de SF un petit peu ancré dans le réel, comme ça, moi, je suis très friand.
Alors, qu'est-ce que t'as pensé du dernier de Dune?
Dune,
attention, touchy.
Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais donner un
avis. T'es exigeant.
DA très très belle. Voilà, très léchée. Un petit peu froid. Je trouve que ça peut manquer de vie un peu, notamment dans la ville sur Arrakis. Là, je trouve ça un petit peu maquette.
Ouais.
Mais en même temps, si je me souviens bien de la lecture de Dune quand j'avais 18-20 ans, c'est un livre qui est très froid, qui est très hiératique comme ça. Tu vois, c'est très les grandes familles. Tu vois, c'est très comme ça. Il y a une noblesse un peu.
Oui, il y a pas un soin qui est porté sur la
non,
populace.
Non, non. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a pas le petit commerçant en bas. Tu vois,
c'est pas d'esprit du.
Ouais, non, c'est pas. Donc j'ai trouvé ça très fidèle et franchement, je me suis régalé. Voilà.
Okay.
Voilà.
Super.
Moi, j'adore son travail sur Blade Runner 2049.
Hein, très très belle DA aussi. Ouais.
Ce film est magnifique. Et pourtant, c'était casse-gueule au possible.
Ouais.
Et il s'en est sorti la main.
Très belle DA et puis aussi belle musique. Je trouve que l'emballage est très bien. Après, toujours sur le scénario, je trouve que c'est un petit peu plus creux, mais voilà. Et donc l'espace en fait. Mais je m'intéresse aussi pas mal à ce qui se passe en fait en ce moment dans le spatial.
Mm-hmm. Bien sûr,
je vais pas faire, si vous voulez, si je me lance dans un truc de science-fiction, dans une image de science-fiction, je vais pas faire l'an 10 000 quoi. Enfin, ça m'intéresse pas trop de faire des vaisseaux à la Dune justement en forme de libellule et tout ça. Ce qui m'intéresse,
c'est bosser pour Ariane Space.
Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'était un super, super chance, de bosser pour eux. Et du coup, c'est ça qui me plaît, moi, c'est de réussir à connecter notre époque avec un futur proche, en fait.
Mmh. C'est ce qu'on trouve en architecture, d'ailleurs,
ouais,
beaucoup.
En fait, c'est ça. C'est que plus que la science-fiction, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'anticipation. Mmh. J'aime bien le petit pas 30 ans en avant, quoi.
Mmh. Ouais.
Par exemple, un film comme Les Fils de l'Homme, de Cuaron,
bien sûr, magnifique. Ouais.
Bah, c'est un film qui m'a remué à fond, parce qu'en fait, ça parle de nous aujourd'hui, quoi. Et
c'est ça
qui est intéressant dans l'anticipation, c'est que ça parle, on va te prendre une problématique comme l'immigration ou tu vois ou l'eugénisme et puis en fait on va te faire un film où on est dans 20 ans.
C'est ça.
Et donc du coup on arrive à être suffisamment angoissant et suffisamment pertinent et voilà.
Je sais pas s'il y a un film sur une utopie en fait d'anticipation, c'est souvent des dystopies. Et ouais. Et même s'il y a une utopie, elle devient dystopique quoi.
Bah oui, c'est ça. Il y a les utopies, même Huxley, Le Meilleur des Mondes, tu vois, c'est une utopie.
On est là-dedans. Hein.
C'est une utopie, mais quand même, quand tu finis le bouquin,
et oui, bah, c'est pas bien.
C'est pas bien. Tu te dis, mais je veux pas de ça. Et en fait, donc, ouais.
Et au final, la poésie, c'est une manière de s'échapper un peu de.
Ouais.
De peut-être cet avenir qui peut faire peur.
Ouais.
Et qu'on peut anticiper.
Mais ouais. Moi, je suis assez optimiste. Enfin, ça se ressent dans mon dessin, mais je suis. On va dire que si je dois traiter une thématique. Qui est lourde, déprimante, je vais être encore plus tenté d'être simple dans mon dessin.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? C'est, je vais avoir envie de mettre de l'universel, en fait. Donc, je vais être un peu plus abstrait, quoi.
Voilà. Je partage ça avec toi. Je suis un indécrottable optimiste, en vrai.
Je suis peut-être un peu le ravi de la crèche, mais disons que dans mon dessin, je tomberai jamais dans enfin, j'arriverai pas à faire quelque chose d'angoissant ou de voilà.
Et alors, on en a un tout petit peu parlé à Nîmes déjà, mais aujourd'hui, t'es un illustrateur hyper installé. T'as bossé pour des grosses marques comme Apple, Google, le New Yorker,
Kenzo,
enfin, you name it. Et on aurait aimé savoir, est-ce que tu pourrais nous lever un peu le voile sur peut-être des difficultés que t'as peut-être eues sur ton parcours, parce que parfois, quand on observe parfois des illustrateurs ou des illustratrices, tu sais, vraiment très installés dans le paysage, on peut se demander, mais quelles ont été les perturbations qu'ils ont pu vivre dans leur dans leur parcours?
Ah, il y en a plein, hein. Elles sont d'ordre différent, hein, mais perturbations. Il y a les angoisses qu'on traîne tous, quoi. Est-ce que je vais être pertinent? Est-ce que ça va durer? Donc ça, c'est un peu le lot quotidien.
T'as ce doute là qu'à un moment ça dure pas et c'est ce qui te pousse à continuer.
Alors je l'ai un peu moins parce que je me dis que si ça dure pas, je ferai autre chose.
Ouais.
Enfin, c'est-à-dire que je.
T'as pris la sagesse par.
Ouais, un petit peu. Voilà, ça. Mais je l'avais beaucoup au départ. Je me disais bon allez, on bosse à mort parce que ça va pas durer. Et j'avais ce truc là. Et puis en plus, mes agents me l'avaient dit.
Ouais.
Quand ils m'ont pris dans l'agence, ils m'ont dit.
10 ans. Bye.
Il peut y avoir une vague. Ça peut être 2 ans. Ça peut être 8 ans. 10 ans. Mais il faut surfer la vague. Voilà. Et en fait, moi, ça m'avait.
Ah ouais, mais c'est un peu flippant quand même quand
tu
penses.
Ouais, il y a un côté.
Mais c'est une réalité du marché.
C'est une réalité.
Il y a des cycles.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais les agences communiquent beaucoup sur les artistes qui font rentrer. Ils communiquent pas sur les artistes qui sortent.
Eh ben non.
Mais les artistes sortent en fait, par la petite porte.
Ce serait horrible pour la newsletter. On a mis machin dehors. Ça marchait pas.
Non, mais c'est exactement ça.
C'est des conversations que des artistes ont avec leurs agents tous les jours. De, il faut changer. Il faut. Qu'est-ce que tu penses de faire ça, de faire ci, parce que là t'as vu machin, et des artistes qui disent alors vous êtes gentil mais moi je m'en vais parce que vous m'avez pas fait bosser depuis 2 ans, depuis 3 ans. Bon, ça c'est la réalité du truc. Donc voilà. Après, qu'est-ce qui il y a des boulots qui se passent mal. Il y en a, franchement, il y a toujours une boule noire, quoi. Ça arrive, hein. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Et je parle pas mal de ah, il y a trop de retours, ou vraiment ça se passe mal, quoi. C'est-à-dire tu sais pas ce que tu fais là.
Ça allait dans le mur, quoi.
Ouais, ça va dans le mur. On va arrêter là parce que ça marche pas. Mm-hmm. Enfin, ça, il y en a. Hein.
Oui, c'est toujours
et,
tendu.
Et puis ça laisse un peu, ça peut faire un peu des dégâts, quoi. Derrière, t'es un peu bon, tu te dis légitimité, voilà, qu'est-ce que j'ai merdé. Et en fait, c'est pas l'artiste qui a merdé. La plupart du temps, c'est juste une erreur de casting, une mauvaise rencontre.
Oui, les erreurs de casting, ça existe.
Ouais,
en
c'est juste à un moment donné.
C'est
en
pas
fait,
facile dans s'en dépêtrer, surtout quand parfois t'es choisi par, prenons une marque ou quelque chose d'assez prestigieux, et tu te dis punaise, c'est trop cool, mais tu te rends compte que c'était pas vraiment pour toi et tu te retrouves embarqué dans un.
Ouais.
Ouais.
Parce que des fois on te choisit parce que c'est une concordance en fait de paramètres qui font qu'ils vont arriver vers toi. et tu te retrouves de, finalement embarqué dans un boulot qui, ouais. qui te correspond pas du tout. Et exactement. Au début tu le dis pas, pourquoi vous m'appelez moi pas oui. personne. Tu dis ok. Parce
vous êtes
que,
sûr
ouais, c'est toujours assez bien intéressant sûr. De prendre des boulots comme ça. Et au bout de deux semaines t'as compris que il y a l'erreur de casting.
Exactement. Absolument. Et du coup à contrario c'est hyper satisfaisant quand tu vois que t'es là pour une bonne raison.
Ouais, ça c'est kiffant.
Tu comprends que, par exemple, typiquement, je reviens sur Ariane Espace. Moi, quand on m'appelle pour ça, je dis bah ouais, banco, on va faire un truc ensemble, ça va être super.
Là, ça fait sens, c'est l'alignement.
Ça fait sens. Je sais pourquoi vous êtes venu, voilà. Et puis j'arrive à voir à peu près ce que vous cherchez. Et pourtant, ce projet-là, j'ai fait énormément de sketchs. C'est-à-dire que, mais à aucun moment je me suis dit j'ai rien à faire là. Mais c'est juste après c'est les aléas du client quoi. Après,
ouais.
Mais c'est pas un boulot qui se passe mal, ça. C'est un boulot qui est plus compliqué que prévu, quoi, mais.
Tu te sens comment, toi, dans la commande, en fait? Parce qu'en fait, tu fais énormément de commandes.
Ouais.
T'as des projets en tête, mais tu te retrouves à faire beaucoup de commandes.
Des projets perso, tu veux dire.
Des projets personnels, voilà. Mmh. Et tu te retrouves à faire beaucoup de commandes. Comment tu te sens là-dedans? C'est quoi ton positionnement? Et puis, comment tu le vis?
Ouais, alors.
Il y a un mythe, hein, du projet personnel, de sortir.
Ouais, ouais.
D'artiste-auteur.
D'artiste-auteur, sortir des livres, quand on est illustrateur.
On en parlait après, en off, juste avant, le côté commercial artist, le côté illustrateur de commande.
Ouais. Alors, ouais. Kiffant, moi, j'ai pas encore, disons que j'ai pas, je me méfie beaucoup de ce truc de projet personnel. Parce que je vois que ça mine pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont habités par ça. J'ai pas fait de projet personnel.
Comme si c'était un fantasme obligatoire,
voilà,
fait.
C'est ça. C'est comme si, t'es vide, t'es personne si tu fais pas de truc personnel. Mais en même temps, moi, j'ai appris à voir que dans le travail de commande, il y avait des choses plus personnelles.
C'est juste.
Et moi, il y a certains travaux de commande qui ont été fondateurs pour moi et où je me suis dit, bah là, t'as trouvé un truc personnel. Et pourtant, c'était une commande. C'était une marque de valise ou tu vois, enfin c'est pas très reluisant, mais en fait
alors ce boulot là juste incroyable, c'est pour bagagiste, hein.
Ouais.
T'as fait en fait des images en fait de ville, en fait du monde entier, et c'est complètement dingue, moi j'adore
c'est un de mes trucs boulot. Les plus personnels, justement, j'ai pas de mal à le dire. Ils sont venus me voir en disant on va créer une série de stickers qui fait le portrait de ville, en fait de ville où
pour Tokyo t'as fait le quartier de Ginza, et écoute, quand j'ai vu ton image je savais où c'était.
Non, mais en fait, c'est j'ai voulu tout faire à hauteur de rue, en fait. Tu vois, genre tout. Je me suis dit, quand on est un touriste avec sa valise, on déambule et en fait, je vais pas faire des panoramas, quoi, parce qu'on passe pas sa vie en haut de la Tour Eiffel ou en haut de Roppongi, en haut d'une tour. Tu vois, c'est toujours un moment dans les voyages,
c'est
en fait, où t'as un panorama, tu vois.
Quand t'as pris, parce que c'est vraiment des endroits. On va reconnaître la ville, mais c'est pas des bâtiments mythiques, en fait, de la ville. Ce sont des bâtiments qui sont très
à vivre,
très
standard, en fait,
citadins.
Ouais. Et donc ça, typiquement, super projet sur lequel j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de personnel.
Il y a combien d'images, hein, sur ce projet?
Et j'en ai fait 13, je crois.
Ouais.
Mais
je trouve intéressant ce que tu dis, que en fait, il n'y a pas une dichotomie perso-pro.
Non.
T'as tout mis ensemble, et c'est peut-être la force de ça. Par exemple, on parlait tout à l'heure de que tu essayais des choses, des nouvelles choses dans des projets de commande. Sachant que parfois, enfin, la plupart du temps, on entend dans tes projets de commande, tu fais le truc où t'es rodé.
Standard,
et puis, les risques, tu les prends dans tes projets perso. Toi, tu t'es dit, screw it, je le fais tout en même temps. Et c'est probablement parce que t'as su insuffler cette personnalité, dans les deux sens du terme, dans tes projets de commande, qu'en fait, ça marche tellement bien pour toi et que t'as pas, peut-être pas besoin de faire quelque chose à côté.
Et que c'est ta voix.
Bon, c'est une petite analyse en live.
C'est intéressant parce que j'avais jamais vu les choses comme ça, mais c'est vrai que je fais beaucoup de commandes, je travaille beaucoup et ça me plaît de travailler, et ça me plaît qu'on continue à m'appeler. Mais plus les années avancent, oui, effectivement, plus je sais ce que je veux faire. On va dire en collaboration avec des marques ou en collaboration avec des journaux. Les degrés de liberté sont plus ou moins élevés. Et ça me plaît de jongler là-dedans. Et si jamais je suis malheureux, je ferai.
T'es professionnel.
Autre chose, en fait. Ouais. Enfin, je veux dire, là, pour l'instant, je suis pas malheureux. Il y a toujours ce petit truc un peu lancinant de se dire. N'oublie pas que t'as quelque chose à dire, etc.
C'est quoi ce petit quelque chose que t'aurais à dire?
Je sais pas si un jour que j'oublie pas que j'ai la capacité, si un jour je veux, c'est faire un livre vraiment plus personnel ou quoi. Mais j'ai pas l'impression pour l'instant d'être malheureux et
ce que tu parles déjà dans ton travail, il y a tout Vincent Mahé dans
c'est ça, et puis en même temps il y a des choses moi que qui me passionne, que ce soit l'architecture, l'espace, le journalisme même, et il y a une partie de mon travail où je suis plus proche des journalistes et où il peut m'arriver de faire du quasi reportage en fait, notamment avec leur revue dessinée. Et ça, pour moi, c'est une aération, quoi. C'est en fait, si c'est vrai que si mon travail était un peu monotone dans le sens où je travaillais que avec des marques et j'attendais qu'on m'appelle via mon agent pour faire la collaboration avec tel fabricant de robinets, là je me poserais des questions. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est d'avoir tous ces pôles en fait dans ma vie. Le journalisme, le boulot qui va être un peu plus créatif, la petite expo, à un moment donné j'ai une collaboration avec une galerie à Paris qui s'appelle Inventaire.
Oui, bien sûr. Coucou Charles.
C'est encore quelque chose de nouveau pour moi où en fait on réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'une belle affiche.
Tu sais que j'étais venu à ton vernissage mais t'avais le Covid. J'espérais te croiser ce jour-là.
Ça a été la semaine catastrophique. C'était vernissage, anniversaire. J'avais un rendez-vous chaque soir, quoi. Et en fait, j'ai eu le Covid cette semaine-là. Et en fait, tout est tombé à l'eau.
Bon, c'est pour la petite histoire.
Mais bon, Charles a été cool. Il a assuré. Il a reçu tout le monde et tout. Et finalement, ça s'est bien goupillé. C'est clair. Mais voilà, en fait, c'est pour l'instant, disons que c'est un équilibre qui me convient. Parce que pour en revenir à la question initiale, c'est que qu'est-ce qui peut entraver aussi la carrière d'un illustrateur ? Et là, j'utilise le mot entraver de manière positive, mais si quelqu'un, par exemple, fonde une famille, ce qui est mon cas, ça va changer la donne.
Va changer ton rythme.
Tu peux nous en parler.
Le rythme. Et en fait,
t'en as deux, hein ? Deux enfants ?
Deux garçons.
Deux garçons, ouais.
Et en fait, on les voit en fait. Moi, j'arrive à voir maintenant entre les lignes sur un compte Instagram, j'arrive à voir le moment où.
Il a pas le temps.
Un garçon et surtout une femme en fait. Tu vois, les artistes femmes qui ont des enfants, chapeau quoi. Tu vois, et parce que c'est une énorme cassure dans la vie, cassure hyper positive.
Oui,
parce
que
ça apporte de génial et tout ça. Et moi, ça maintenant c'est central dans ma vie. Mais ça c'est une perturbation dans la force de la carrière. Ouais, c'est clair.
Il l'a dit.
Ouais. Moi, j'ai appris à jongler avec ça. Ça m'a pris des années. Et moi, dans ma famille,
C'était comment au début, quand t'as eu ton premier garçon? Parce que tu dis que ça t'a pris des années.
Ça m'a pris des années à trouver l'équilibre. Et je crois que je l'ai pas encore trouvé. Mais moi, je...
Je suis pas sûr qu'on le trouve, hein, puisque chaque étape de l'enfance, en fait, amène des nouvelles.
Et moi, en fait, le moment en 2014, quand j'ai eu mon fils aîné, ça commençait à prendre. C'était vraiment c'était le haut de la vague. Et en fait, moi, j'étais un workaholic total. Je bossais comme un malade. Je faisais des journées de 12 heures. J'étais ici. Et en fait, à l'époque, j'avais une vie assez pratique parce qu'en fait, on s'était installé avec mon épouse juste à côté d'ici. Et en fait, là, il y avait vraiment tout était mêlé, quoi. Le bébé arrivait et puis moi, j'étais dans mon travail. Je pouvais retourner bosser après. Enfin, je conseille pas, hein, mais c'était très pratique à l'époque. Et en fait, au fur et à mesure, il a fallu tout réorganiser. Mon deuxième enfant est arrivé et là, en fait, d'étape en étape, on va dire que l'équilibre se fait, quoi. Et puis, moi, j'ai envie de rien rater de ces années-là. C'est quelque chose pour moi d'hyper important. Exactement, on voit que ça passe vite et tout. Et moi, je veux kiffer avec mes enfants, quoi. Donc maintenant, ça peut m'arriver de faire des journées de 3 heures de travail.
Ouais, donc t'es revenu de ce mode workaholic. Ouais,
exactement.
Ah oui, t'as réussi quand même.
Ah ben ouais, en fait, moi,
T'as réussi aussi parce que la sauce a pris.
Ouais, exactement. Si ça avait pas pris, ça aurait été différent. Mais disons que ces années de gros boulot au début font que maintenant, moi franchement, je refuse pas mal de boulot.
Ouais, tu sélectionnes.
Ouais, je refuse pas mal de boulot et ça, j'étais incapable de le faire avant. Mais en dialogue avec mes agents, etc., maintenant j'arrive à...
Tu veux pas qu'un mauvais boulot vienne troller ta vie de famille?
Mais surtout, c'est ça, c'est que si j'y trouve pas du sens, ça va me rendre dingue, en fait, de perdre du temps, d'être sur un truc... où j'ai l'impression juste de pas être avec mes enfants pour faire un truc nul, c'est hors de question. Et du coup, je recherche de plus en plus du sens et d'avoir du temps, en fait.
Puis j'imagine que les enfants, ils apportent aussi un sens supplémentaire.
Ouais, c'est clair.
À tout.
C'est clair, à tout. Ouais. Donc.
En fait, c'est un peu une banalité ce que je viens d'envoyer, mais on en parle souvent avec Laurent. C'est assez indescriptible parce que. Ça devient cosmique et très terre à terre à la fois, quoi.
Oui, Ah, c'est très terre à terre. Ouais, quand il faut donner le bain, faire à manger, enfin, il y a un truc très prosaïque, quoi. C'est vraiment là, faut assurer. Mais il y a une, ouais, il y a une transcendance. C'est clair. Il y a un truc où tu te dis, la quête de sens de la carrière, elle m'a apporté ça, mais maintenant il y a un sens supplémentaire, un sens supérieur même. Et
Everything is connected.
Voilà. Et ça permet. Non, mais et puis en fait, tout le monde galère à trouver cet équilibre, mais disons que pour l'instant, la formule que j'ai en ce moment me va très bien.
Peut-être que la formule, c'est de pas trouver l'équilibre. Enfin, tu vois, c'est le déséquilibre qui amène le mouvement.
Non, mais l'équilibre statique n'existe pas dans l'univers. C'est toujours une balance.
Mais surtout, c'est surtout trouver l'équilibre en freelance, c'est compliqué. Ouais, donc en fait, l'équilibre, c'est de réussir à faire du cas par cas, tu vois, tout le temps. Et moi, mon épouse, qui travaille aussi beaucoup. En fait, c'est ça la particularité de notre famille aussi, c'est que on a un balancier entre elle et moi permanent, parce qu'elle, elle est réalisatrice de séries.
Ah oui, d'accord.
Et du coup, elle travaille énormément, mais par période. Il peut y avoir des tournages, des périodes de storyboard, des périodes d'enregistrement en studio. Enfin, pour elle, dans sa vie, il y a des impondérables, et il va falloir que je sois là, en fait, à ce moment-là. Et pareil, en sens inverse.
Est-ce que votre vie est un film français?
Eh bah, ben, un peu. Un peu. Il y a des claquements de portes. Il y a des, non, mais.
Il n'y a pas de musique, c'est un peu un film d'auteur.
Ouais. Ah, j'aimerais bien que ce soit un Romer. Ouais.
Pas mal.
Mais, non, mais tout ça pour dire que, ouais, en fait, c'est un peu une conversation permanente, en fait, à avoir.
Ouais.
Pour réussir à sauver du temps. Et sauver du temps pour les bonnes choses, voilà. Mais moi, j'ai tendance à pas aimer perdre mon temps aujourd'hui pour des choses qui n'ont pas de sens, voilà. Après, on trouve du sens chacun dans
des choses différentes.
Dans des choses différentes, c'est-à-dire il y a des illustrateurs qui vont regarder mon compte Instagram et qui vont se dire bon bah il y a pas beaucoup de sens. Il y en a d'autres qui vont se dire c'est très bien. Enfin voilà, après c'est chacun fait sa sauce quoi. Mais disons que moi ça me convient bien en fait.
En parlant d'équilibre, si tu le veux bien, on a je les ai rencontrés à Nîmes. Le podcast il est soutenu par des personnes qui nous soutiennent financièrement sur Patreon. C'est les membres du Patate Club, du World Famous Patate Club. Et on leur a dit qu'on allait t'interviewer. Donc, on leur donne toujours la possibilité de poser des questions en amont.
Okay.
On en a sélectionné quelques-uns. Donc, on va y aller. Tu poses peut-être la première?
Ouais, bah, la première question, elle est de la part de Florent. Arrives-tu à refuser certains projets? On en parlait tout à l'heure. Comment gères-tu les moments où tu as besoin de repos?
Mal. non, mais alors oui, j'arrive à refuser des projets, comme je disais, de mieux en mieux. Disons qu'un projet où il y aura pas beaucoup de sens, je vais refuser. Et est-ce que j'arrive à faire l'équilibre de mieux en mieux, mais pas encore très bien. Ça peut m'arriver de me retrouver en vacances avec du boulot. C'est arrivé là à Noël.
Chaud pour la vie de famille aussi.
C'est pas facile.
Et t'as pas pu refuser celui-là?
Non, parce que c'était quelque chose qui avait du sens, beaucoup de sens. Enfin, okay. C'était la revue dessinée justement, la chronique que je fais avec eux, qui est une chronique en fait où ça s'appelle les lieux de pouvoir. Et en fait, je vais avec le journaliste sur les lieux de
pouvoir.
Sur un lieu de pouvoir. Exactement.
Et c'était sur quel sujet là, celui-là?
Et là, c'était l'école des mines, qui est notamment le corps des mines dans l'école des mines, qui est un corps qui forme des très très hauts fonctionnaires, en gros les futurs administrateurs du pays. Et
ah oui, c'est passionnant ça.
Ouais, et du coup c'est passionnant, on est toujours très bien reçu, et du coup ça permet de dessiner sur place, et ensuite moi je dois transformer les dessins faits sur place.
Mais ça c'est vraiment du dessin de reportage.
C'est trop cool.
Mais t'as quitté les vacances de Noël pour aller du coup
non,
là-bas?
Non, en fait j'avais déjà fait la visite.
Ah, okay.
Mais il fallait livrer la chronique et voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pas perdre, parce que ça a beaucoup de sens. Je c'est quelque chose que j'adore faire. Et
donc du repos mais avec parcimonie.
Voilà. Non mais après j'ai disons que voilà, on était à la montagne. J'ai pas beaucoup skié, mais bon. J'ai pris l'air. Mes enfants sont éclatés, et moi voilà, pendant qu'ils étaient au cours de ski, je rentrais à la maison puis je dessinais quoi.
Après on peut dire que t'es entraîné. C'est-à-dire que t'es pas complètement vert devant ce type de boulot, enfin l'ampleur que ça peut représenter.
Ouais, c'est ça. J'arrive bien à évaluer. En fait, j'arrive bien à évaluer. Ce que j'arrive pas à évaluer, c'est à quel point un projet va traîner et à quel point un autre va se retrouver collisionner et du coup repousser, et voilà, là c'est ce qui est arrivé.
Oui, ça c'est
ce qui est arrivé, mais après c'est encore une fois c'est toujours en dialogue avec ma famille. je dis bah voilà, ça va être comme ça, qu'est-ce que je fais, est-ce que je repousse, voilà. Mais maintenant,
est-ce que tu en entends, t'as des vétos, genre tes enfants ou ta femme qui disent ah non la chérie là c'est pas possible?
Non franchement ils sont hyper cool, non j'ai pas de véto, mais c'est juste on essaye au mieux d'anticiper.
De toute façon, j'imagine qu'une mère réalisatrice et un père illustrateur, les enfants ils baignent dans cet environnement et ils ont l'habitude.
Ouais, bah après c'est leur comme normalité. c'est comme tous les métiers, les parents, c'est vrai. Je pensais pas, en fait, tu vois, avant je me disais il y a un peu une doxa dans l'air du temps qui est tu peux devenir ce que tu veux. Tu vois, c'est des parents ouvriers peuvent, enfin si t'as envie d'être chirurgien vas-y, mais en fait tu vois il y a quand même un déterminisme énorme.
Oui, forcément.
Et moi je vois mon père chef cuisinier, j'adore cuisiner pour moi dans ma vie, tu vois. Et en fait, souvent, quand j'ai des amis qui viennent chez moi et qui me regardent cuisiner, ils me disent « Mais comment t'as appris tous les petits gestes? Comment tu sais qu'il faut mettre de l'eau pour déglacer ?» C'est quoi le truc, en fait?
T'as vu ton papa faire quoi?
Ouais, bah, en fait, je dis juste « Je regarde mon père faire quand je vais chez lui le week-end. Je regarde comment il fait. Des fois, je l'appelle, je lui demande un conseil. » Enfin, voilà, c'est...
Ah, y a le sens de l'observation aussi.
On hérite de quelque chose, toujours.
Et du coup, c'est pour les grandes tables du monde.
Ouais, ça c'était trop marrant. Ouais. L'association des grandes tables du monde m'a demandé d'illustrer la couverture de leur guide. Chouette. Ouais, non, c'était.
T'as même fait un petit édito.
C'était marrant. Ouais, ils m'ont demandé de faire un petit édito, et puis du coup, je pense qu'eux-mêmes le savaient pas, mais il y avait quelque chose de très personnel dans ce.
Ouais,
dans
c'est
ce
incroyable.
Ce boulot,
comme
ouais.
quoi,
Et puis là, tu vois, il y avait du sens. Je pouvais pas refuser ce truc-là. Puis, voilà. Mais pour en revenir au déterminisme, bah voilà, c'est j'arrive à voir que mes enfants aiment dessiner. J'essaie de pas les influencer du tout hein, dans les codes ou quoi. Je leur dis pas bah non les yeux fais-les comme ça, mais par contre ils ont une soif quoi de dessiner. Joseph, mon grand, il adore faire des quasi-tournages. En fait, il prend des lampes, il met des filtres de couleurs devant.
Ah ouais.
Il met un trépied, il fait un truc, il fait une fausse émission de télé, tout.
Enfin, c'est un futur youtubeur.
Ouais. Je sais pas. Mais.
De temps en temps, je me demande si nos enfants, à 10 ans, ils auront une chaîne YouTube. Tu sais, parce que ça va tellement vite.
Ça va très vite.
Ils apprennent. Non, mais que ce sera leur normalité. Tu vois, par exemple, toi et moi, on fait un podcast. J'ai commencé à faire de temps en temps, je fais des podcasts avec Félix, mon aîné qui a 3 ans. Et pour lui, les podcasts, c'est normal. Et peut-être que dans 10 ans, quand il sera au collège, tout le monde aura un podcast. Tu sais, genre, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et puis, c'est genre, c'est quoi ton podcast? Ah ouais, je vais aller écouter. Enfin,
bien sûr.
C'est bizarre. Ouais, sachant que nous, on se dit, genre, on apprend tout from scratch, etc. Et que ce sera genre... Et puis à un moment donné, on sera dépassé. Et puis, c'est tout.
Mais Joachim, là, tu vois, il fait des bandes dessinées en ce moment. Et là, il est déjà à sa troisième saison de sa BD, quoi.
Ah ouais,
il enchaîne.
C'est génial.
C'est pas moi qui le force, quoi.
Ce
dont ils sont nourris, en fait.
Il y a quelque chose de fascinant hein, dans l'enfant qui apprend. C'est fou, quoi. Ouais.
Alors, on a une question de Roxane Campois qui te demande. J'aurais une question sur le style. Lorsqu'on regarde le travail de Vincent Maé sur Instagram, d'un post à l'autre, on voit qu'il s'autorise d'abandonner la ligne, de faire des aplats francs ou des dégradés. Pareil pour les persos, parfois ils vont être tout simples puis hyper détaillés. Est-ce que ce sont des contraintes de clients ou bien est-ce que c'est lui qui s'autorise parfois en se disant « Allez, je change ».
Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais des fois c'est le client qui te demande ton style ou pas ?
Non. Mais effectivement, il y a certains projets, je sais pas comment ça vient, mais disons que selon l'épaisseur du trait ou selon, j'ai toujours un niveau de réalisme que j'ai envie de faire varier en fait en permanence, que ce soit les personnages ou le décor. Et du coup, par exemple pour la revue dessinée, la chronique où je vais sur les lieux, j'y ai injecté un tout petit peu plus de réalisme dans les personnages effectivement et dans le décor. Mais il y a d'autres projets où je vais avoir envie de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Pareil pour le dégradé ou le fait de pas mettre de lignes. Ça c'est plus pour une histoire de réalisme dans la lumière, ou des fois j'ai envie que ce soit des aplats francs, très simples, grosses lignes noires remplies, tu vois, genre cellulose de dessin animé quoi. Et puis d'autres fois j'ai envie que la ligne s'efface un peu pour avoir un joli coucher de soleil.
C'est une question d'atmosphère en fait.
Ouais, c'est ça, c'est que... Et puis alors après on pourrait se dire que c'est parce que j'ai telle ou telle demande du client, Peut-être. Il y a une part de forcément le client lui il arrive avec des idées en tête de ce que j'ai déjà fait avant et ils me disent il y a ça. Mais je trouve ça vraiment rafraîchissant encore une fois de pouvoir varier.
Oui.
Varier les types de boulot, mais aussi varier les styles. Et du coup, moi, d'avoir ce petit couteau suisse là, ça me rassure aussi de me dire que je suis pas figé.
Bah ça c'est
dans une épaisseur de trait ou dans un, tu vois. Disons que c'est un peu comme en cuisine, quoi. Tu vois, si tu sais faire que du risotto, au bout d'un moment, tu
te... Oui, c'est donc, clair, c'est clair.
C'est juste à un moment donné, réutiliser certains trucs, du risotto, tu le fais avec des coquillettes.
Oui,
tu
vois, oui, 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 oui.
Mais, non, j'aime bien avoir plusieurs outils.
Je pense qu'on va intituler cet épisode La petite cuisine de Vincent Mahé.
Exactement.
Ce serait pas mal. Très bien. Hein. Ce serait pas mal. Hein. Dernière question d'un des membres du Patate Club, c'est Jérémy Lelaurent qui empiète déjà un peu sur ce que tu es en train de répondre. Comment vois-tu ton style évoluer à l'avenir? Tu viens de le lire. Y a-t-il des choses que tu aimerais encore explorer? Des blocages peut-être que tu traînes et que tu aimerais dépasser? Même chose pour les thématiques. Y a-t-il des thématiques ou des sujets que tu n'as pas encore eu l'occasion de traiter et que tu verrais comme un bon challenge?
Ça, c'est dense comme question.
Mmh. Ouais, tu
alors, sur les,
tu
sur
veux,
les blocages, mais, sur les blocages, c'est intéressant parce qu'il y en a, mais j'ai tourné autour. Enfin, ils sont arrivés devant moi. Il y avait des choses que je savais pas faire ou que je... Mais bon, je considère que maintenant le style que j'ai, enfin les styles, on peut dire maintenant, que j'ai mis en place me permettent de contourner les blocages et maintenant de réussir à peu près tout faire, je pense, mais toujours à ma sauce. Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais faire?
Un film de SF.
Non, mais je sais pas. En termes de style, je crois pas, parce que j'ai confiance en le fait que ça évolue, et que le truc, voilà, c'est ça, naturellement, fait son chemin. Et en termes de projet, bah oui, après, il y a toujours des choses un peu dans un coin de la tête, toujours une idée de livre, ou une idée de projet, ouais. Mais je suis quelqu'un qui me laisse pas mal emmener, enfin, sur le chemin, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, les choses sont arrivées un peu d'elles-mêmes. Donc,
le projet avec Kenzo,
je me laisse surprendre.
Ouais, c'est chouette. Ouais.
Hein. Le projet avec Kenzo, donc il y a un film publicitaire qui fait à peu près une minute. C'est ça.
Oui.
Ça t'a redonné envie de revenir vers l'animation ou pas? T'as pas fait l'animation dessus, hein. Mais,
j'ai pas fait l'animation.
Bon, j'imagine.
Non,
il y a eu des
animateurs hyper talentueux, ouais, qui ont travaillé là-dessus. Mais en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un travail de réalisation, et en fait, j'ai co-réalisé le film avec avec Parallèle, qui est le studio. Et en fait, pour tout vous dire, dans ce projet, il y a eu une petite confusion sur qui fait quoi, parce que en fait, la pub, on est vraiment pressé par le temps, etc.
C'était pour les fêtes de fin d'année.
Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'y était pris vachement en avance, mais c'était quand même, il y avait une somme de boulot énorme. Et en fait, moi, il était convenu que je fasse toute l'identité illustrative, en fait, de la campagne. Donc, que tout ce qui était dessiné, en fait, serait fait par moi.
On peut le raconter un petit peu. Hein. L'idée, en fait, c'est donc on part du Japon, et ce sont des grues, en fait, qui amènent les parfums Kenzo jusque Paris. Donc, on a cette amitié franco-japonaise, en fait, qui est déclinée avec une approche peut-être un petit peu image d'Épinal, imagerie d'Épinal, tu vois.
Ouais,
tu le sais pas,
absolument.
Mais il est fan de Japon, hein, il connaît très bien la culture, c'est pour ça.
Ouais, non, mais c'est tout à fait. En fait, l'idée, c'est de faire ce voyage entre les deux cultures avec, justement, moi, je pense que aussi stylistiquement, je suis un peu à cheval entre les deux cultures. Ce que je fais est très franco-belge, mais l'estampe japonaise m'influence énormément, et notamment l'estampe du XXe siècle. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir ce style un peu dialogue. Et puis, après, moi, je me suis éclaté, parce qu'en fait, il n'y avait pas grand chose au départ du projet. Il y avait vraiment juste l'idée qu'a amené Costume 3 pièces. Eux, ils étaient studio de création au départ là-dessus. Et du coup, ils ont proposé à Kenzo une idée qui était justement des grues partent du Japon, comme si d'un château médiéval japonais, comme si c'était la fabrique du Père Noël en gros, et apporte les cadeaux Kenzo jusqu'à Paris. Donc ça, c'était l'idée de départ, mais il y avait pas grand chose à part un board qui était plutôt mood, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Et du coup, là, j'étais très libre là-dessus, et ça a été génial, en fait, en termes de créa. Je me suis beaucoup, beaucoup amusé. Mais après, en fait, la réalisation du film, mes petits réflexes d'animation sont revenus, quoi. Et du coup, je me suis découvert l'envie et l'appétit, en fait, de suivre le projet jusqu'au bout, quoi. Et en fait, j'ai checké chaque plan d'animateur. On a discuté vachement avec le studio, qui ont fait un boulot incroyable.
Ouais,
moi, j'adore ce qu'ils font. Ils sont vraiment très 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 talentueux, je trouve, dans toute leur réalisation. Et là, là-dessus, ils ont pas démérité, quoi. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Et c'était un plaisir, en fait, de retrouver ce petit ce métier quoi de réalisateur, de co-réalisateur. Et encore une fois, tu vois, ça rejoint ce que je disais, c'est que c'est arrivé comme ça quoi. Ouais. Le long du chemin en fait, à un moment donné, on m'a dit
quand on t'écoute, moi j'ai ce sentiment très organique et holistique quoi, que les choses coulent de soi, l'une amène à l'autre, pas exempt de perturbations, mais en fait tout est incorporé, tout est un. Tu vois, il y a une universalité, il y a pas de dichotomie dans tout ce que tu racontes. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, trop bien.
Ouais. Et puis mais je vois, il y a pas de raison à se torturer l'esprit, quoi. Je vois beaucoup d'artistes en fait ces questions travaillent beaucoup, les questions de que ce soit de style, de légitimité, de est-ce que je fais les bons choix de carrière, etc. En fait, faut, je vais dire une banalité, mais faut juste aimer ce qu'on fait en fait, aimer la manière dont on dessine, aimer dessiner comme on le fait, et puis voilà, ça trouvera son public.
Ça va être la phrase d'ouverture du podcast, c'est trop bien. Et en parlant d'ouverture,
un peu d'amour personnel pour son travail, tu vois, un peu d'indulgence.
Ouais, c'est clair. Et ben pour terminer,
en parlant d'ouverture, on va ouvrir une boîte.
Ouais, pour fermer
l'épisode. Vas-y. Alors, je te présente la boîte à boxon, Vincent.
Ok.
Donc dans la boîte à boxon, en fait, c'est une
bam, ça va sortir un truc de fou.
N'aie pas peur. C'est une boîte qu'on propose à tous nos invités, et dedans, en fait, il y a des questions. Et quand on tire une question, elle part pour toujours. C'est ta question et tu seras le seul à répondre à cette question-là. Donc en fait, on ouvre la boîte, hop, et tu as plus qu'à piocher une question, un peu au hasard. Donc il y a trois types de questions. Tu vas le voir à l'intérieur, il y a un code couleur. Il y a des questions sur la transcendance, des questions sur la créativité, des questions sur le chaos. Et je vois que tu as tiré une question
jaune.
Donc c'est une question sur la créativité.
Quel est l'ouvrage ou l'œuvre qui t'a le plus influencé au cours de ta carrière? Alors ça, c'est une question difficile parce qu'il faut choisir. L'ouvrage ou l'œuvre qui t'a le plus influencé au cours de ta carrière.
Le coup de foudre, le truc que
le coup de foudre.
Où tout s'est joué, tu sais.
Ouais, alors je sais pas, je dirais je vais revenir un peu sur Chris Ware, mais
je le savais.
Jimmy Corrigan, j'ai première BD que j'ai lue de lui et ça m'a fait tomber dans son univers et j'adore, c'est une de mes préférées, mais dans Building Stories quand même, cette énorme boîte.
Ah, je l'ai à la maison.
Cette énorme boîte remplie de formats différents avec ce truc complètement qui m'a fait exploser le cerveau, mais où je me suis dit, en fait, chaque personne est en train de lire une histoire différente parce que comme il y a 12 formats ou 20 formats là-dedans qui racontent tous un peu la même histoire sous des angles aussi différents qu'il y a de formats, en fait, il y a quand même de fortes probabilités que chacun lise une histoire différente, en fait, dans un ordre différent. Et puis après, c'est une histoire aussi qui est, en gros, je vais résumer un petit peu, mais c'est l'histoire d'une femme à qui on a amputé une jambe.
Quand je disais que c'était triste, parce que je l'ai lu.
Et en fait, c'est l'histoire de sa vie, de toute sa vie, jusqu'à ce qu'elle ait un enfant et qu'elle soit mariée. Et cette vie est liée à l'immeuble dans lequel elle vit. Mm-hmm. En fait, c'est une histoire main dans la main entre l'histoire de cette femme et l'histoire de cet immeuble, parce qu'on remonte très loin dans l'histoire de l'immeuble.
Personnage.
Ouais, Building Stories.
Voilà. Et voilà, donc Building Stories, il y a un jeu de mots en plus génial, genre
sur construire des
étages aussi.
C'est méta.
Ouais, c'est complètement complètement méta, complètement total. Et bon, moi, j'ai cette œuvre m'a profondément marqué. Et voilà. Et bon, s'il faut en choisir qu'une, ce serait celle-là.
Ok.
Ça sera celle-là.
Voilà. C'est.
Je conseille. Fortement.
Ah ben un grand merci Vincent, on est ravis d'avoir pu discuter avec toi.
Cette discussion, c'était
hyper cool.
C'est agréable.
Merci à tous les deux.
C'était notre discussion avec Vincent Mahé. Alors Laurent, qu'est-ce que t'en as pensé de cette discussion?
Encore un bon moment passé avec quelqu'un qu'on adore. C'était vraiment une discussion à cœur ouvert. Je pense qu'il s'est vraiment bien livré, Vincent.
Ouais. On a mis.
J'aime pas trop l'exercice de l'interview.
Genre on en a dû un petit peu le courir après pour pouvoir enregistrer cet épisode, mais
Il l'a fait volontiers et il nous a donné beaucoup.
Oui, je suis hyper content.
En fait, c'est marrant, c'est à la fois ce qui, en fait, il ressemble vraiment à son travail. C'est-à-dire que c'est un illustrateur, auteur de commandes, mais il arrive à apporter énormément de sens dans ce qu'il fait. Et en fait, dans l'interview, on aurait pu penser qu'il allait nous parler d'un parcours un petit peu linéaire, un petit peu facile, parce qu'il a beaucoup de succès, etc. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il nous a vraiment parlé de tout ce qui pouvait être ses doutes et de comment il affrontait les choses et qu'il y a rien qui est jamais gagné, en fait.
Carrément.
Et qu'il se pose encore des questions.
Bah, du coup, merci Vincent d'avoir pris le temps de nous partager ça. Si vous connaissez pas encore son travail, qui êtes-vous? Mais surtout, bref, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, notamment.
Ouais, regardez ces magnifiques illustrations, parce qu'elles sont à tomber.
Et maintenant, il est temps d'écouter les témoignages de Roxane Campoy, qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patate Club.
Salut, je m'appelle Roxane Campoy, je suis réalisatrice de films d'animation et illustratrice professionnelle, et je fais partie du Patate Club. À quel Patreon?
Roxane?
Attends, je suis en train d'enregistrer mon message comme quoi je soutiens financièrement Jérémy et Laurent sur Patreon et que c'est génial.
Pourquoi c'est génial?
Bah, après tu deviens une patate.
Une quoi?
Une patate du Patate Club. C'est le groupe de Discord sur lequel on pose toutes ces questions pro et on peut parler de ses névroses dans le métier.
Et ça coûte cher?
Ah, le prix d'une pinte à Lille ou un demi à Paris.
Ah, genre 5 euros.
Oui, et puis t'as accès au podcast Les Patates parlent aux patates. Un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons. C'est animé par Pauline Duhadi et un membre mystère du Patate Club. Ouais, bah si tu veux en savoir plus, tu te rends sur patreon.com sur ce créatif podcast. Voilà, un petit message pour dire que c'est trop cool le Patate Club. Rejoignez-nous. On est devenu une secte de la patate.
Pour nous aider à diffuser cet épisode, ça serait vraiment super si vous pouvez le partager avec vos amis. Et surtout, merci par avance de nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast.
Yes, ça nous fait monter dans les charts. Yes. Donc parlez-en à tous vos amis. Sens Créatif a besoin de vous. Vous pouvez aussi également nous suivre sur les réseaux sociaux.
Oui, sur YouTube.
Sur YouTube, parce que
Instagram.
On ne le répétera jamais assez. On a une nouvelle chaîne YouTube et il y a plein de contenu à aller voir là. Donc
tout le contenu est sur YouTube maintenant.
Oui, des petits bonus et compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter.
Oh oui, merci s'il vous plaît.
Parce que Laurent développe un super feuilleton sur le boxon créatif. Franchement, ça défonce. Donc,
je te remercie.
N'hésitez pas à vous abonner. Pour trouver le lien où vous abonner, vous n'avez qu'à aller sur le site www.senscreatif.fr.
Et puis évidemment, vous retrouvez toutes les infos et les notes de cet épisode sur le site senscreatif.fr. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Je pensais que tu l'avais pas dit.
Mais c'est pas grave, voilà. C'est pas grave. Alors, pour terminer.
C'est quoi? vous l'avez deux fois en double maintenant.
Exactement.
Super.
Pour terminer, on remercie Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. N'hésitez pas à le suivre sur son Instagram @AdrienGuyMusic ainsi que sur sa page SoundCloud pour écouter ses sons.
Il déchire.
Ouais. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode Show Show Show
avec l'autrice de BD Emily Gleeson.
Voilà, Emily.
She's coming back.
She's coming back. En attendant, restez créatifs et surtout,
everything is connected.
Petit instant de solitude et surtout, n'oubliez pas,
everything is connected.
C'est beau, c'est beau.
J'ai l'impression d'être Tom Haverford dans Parks and Recreation.
Vas-y. Non, chante avec moi.
Je chante autre chose.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.